Bonjour à tous et bienvenue sur Gameblog.fr pour ce nouveau podcast à la rédaction, podcast numéro 340. On s'intéresse aujourd'hui aux jeux vidéo japonais. Voilà, les podcasts d'actu reviendront la semaine prochaine, ainsi que tous les intervenants habituels. On transmet toutes nos amitiés et notre soutien à Julien qui traverse une période un petit peu compliquée. Voilà, on t'embrasse très fort Julien, on sait que tu vas nous écouter.
Bisous.
On est avec nous Romain. Romain
Konnichiwa.
Konnichiwa. Comment ça va? Très bien.
Genki desu.
Genki desu. Bravo, c'est bien, je vois que ça maîtrise le japonais.
Des petits souvenirs de cours de japonais lointains.
Ouais, très bien. Et on accueille avec nous aujourd'hui un invité spécial qui nous vient tout droit du Japon, figurez-vous. C'est Axel Riffa.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Super. Alors ouais. Axel, les gens te connaissent peut-être un peu mieux dans la communauté sous le pseudo Kaminos.
Ouais, j'y voilà. Traînais pas mal et encore
t'étais,
un peu aujourd'hui. Ouais.
Très actif sur la communauté il y a quelques années, mais il y a 3 ans, t'es parti vivre au pays du soleil levant.
Oui.
Pour travailler en tant que développeur.
Exactement, chez Gameloft.
Alors Gameloft Japon.
Gameloft.
Gameloft.
Je sais pas si c'est comme ça que vous le prononcez.
Gameloft.
Gameloft.
Alors chez Gameloft, donc tu développes des jeux. C'est quoi ton actu actuellement?
Alors on bosse un jeu depuis 1 an et demi, 2 ans qui s'appelle Magna Memoria, mais qui sort là. C'est une toute nouvelle IP et le jeu sort incessamment sous peu. Ça va être au mois de mai.
Ah bah donc c'est fini là.
Le jeu et la version 1.0 est bouclée, ouais.
Et alors seulement les Japonais ont
alors,
le droit d'y jouer.
Exactement. Enfin le jeu sort au Japon et en fonction des scores qu'on fait, si on atteint les objectifs, ça sortira en international plus tard dans l'année.
On répète le nom.
Magna Memoria.
C'est
voilà.
Quoi comme type de jeu?
C'est du online RPG en 2D avec un écran séparé en deux avec du gameplay un petit peu à la puzzle en bas. Et ont une partie 2D super classe, franchement, graphiquement, c'est vraiment super beau. Et c'est vachement axé social, online, etc. Avec des raids, des instances à jouer avec tous tes potes, etc. En fait, voilà.
Okay. Très bien, et donc ça fait donc 3 ans que, ouais. Que tu es là-bas et voilà, tu es un intervenant de choix. Donc pour parler avec nous du jeu vidéo japonais, on avait envie de revenir un petit peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le jeu japonais qui serait mort, qui connaîtrait pas mal de difficultés. Alors voilà, c'est clairement l'ancien marché leader hein, dans les années 80-90 qui aujourd'hui est réduit un petit peu à peau de chagrin sur l'échiquier mondial. Suite notamment à un boom du jeu mobile, ouais. Et puis voilà des anciennes gloires du développement qui ont été un petit peu en panne de créativité ou de pouvoir technique on va dire sur les récentes consoles.
L'explosion des studios occidentaux aussi qui a forcément
sûr,
servi à mettre
sûr.
En avant la petite panne de créativité des,
tout
des
à
japonais
fait. Exactement, donc qu'est-il arrivé aux jeux vidéo japonais? Quel sera son avenir sur l'échiquier mondial? Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'il est en crise? Est-ce qu'il a simplement muté? On va voir un petit peu tout ça en s'intéressant vraiment à tous les aspects du jeu vidéo japonais sur console traditionnelle, mobile, sur les modes du moment, sur ton ressenti là-bas, ouais. Sur voilà, tous ces contacts que tu as pu avoir en tant que développeur avec d'autres studios, sur ce qui se dit, sur voilà, l'avenir du jeu vidéo japonais. Alors d'abord, petit récap, hein, voilà, pour que tout le monde soit bien au clair sur l'histoire du jeu vidéo au Japon. Ça commence dans les années 70 où d'abord les Japonais ont commencé à singer un petit peu les bornes d'arcade américaines qui connaissaient un grand succès avant de créer eux-mêmes très rapidement leur propre hit dont le plus grand ambassadeur est évidemment Space Invaders de Taito qui a eu un succès retentissant dans le monde entier et puis rapidement les années 80-90 avec l'arrivée de la NES, donc la Famicom au Japon qui a fait suite en fait à une grosse crise du jeu vidéo américain en 83, voilà, même année d'ailleurs de sortie pour la NES au Japon, 2 ans plus tard aux États-Unis, 2 ans encore plus tard, donc 85 et 87 en Europe.
La NES a tout simplement fait revivre le marché de la console de jeu, quoi, parce
voilà.
Que avec la chute de l'Atari 2006 et la chute d'Atari tout court, les gens pensaient que la mode des jeux vidéo à domicile en fait était tout simplement terminée, quoi. Qu'il n'y avait plus de marché pour ça. D'ailleurs, quand la NES est sortie aux États-Unis, c'était sur des petits marchés tests dans quelques magasins à New York, histoire de prendre la température, voir s'il y avait du potentiel. Et une fois que ça a cartonné, ensuite ça a été l'explosion.
On connaît la suite, Nintendo qui devient un verbe pour signifier jouer aux États-Unis, le grand succès qu'on connaît de la NES, puis de la Super NES. En gros, c'est 20 ans environ, voire un petit peu plus, de domination sans partage du jeu vidéo japonais. Dans le monde entier, on jouait aux jeux japonais. Les grandes licences, les grands éditeurs sont nés et ont grandi à ce moment-là sur l'échiquier international. On, effectivement, tu as raison, Romain, de redonner naissance aux jeux vidéo. Et on fait donc du Japon l'acteur principal qui s'est progressivement ensuite éteint, on va dire, entre les années 2000 et 2010. Et alors, ça coïncide totalement avec un autre boom au Japon qui a été celui du jeu mobile. Voilà, alors que nous, on était sur nos petits Nokia avec écran LCD et qu'on jouait éventuellement à Snake dans le métro, et ben, les jeux japonais, eux, sur mobile, et ben, ils étaient sur des écrans couleurs, il y avait des caméras, il y avait des lecteurs d'empreintes digital, il y avait des cartes SD pour gagner de la mémoire, enfin bref, des petits bijoux technologiques.
Quelque chose qu'on sait très peu, c'est que dès le début au Japon, ouais, le réseau le plus bas qui existe, c'est la 3G. Il n'y a pas de GSM, il n'y a pas de Edge, il n'y a pas un seul téléphone qui n'est pas 3G de base, et ça depuis des dizaines d'années, quoi.
Mais c'est pour ça qu'au Japon, ce qui s'appelait l'e-mode, ouais, a beaucoup mieux marché qu'en France. En France, c'était juste Bouygues qui faisait l'e-mode.
Avec des GPRS pourris et des débits pourris.
Voilà, ça a vivoté pendant quelques années, mais c'était vraiment pas pratique d'aller sur Internet avec ça, alors qu'au Japon, eux, c'était
le seul pays où t'avais vraiment de l'Internet mobile avant l'arrivée de l'iPhone, quoi.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous disait que quand vous allez au Japon, vous pouvez pas acheter de téléphone portable parce qu'il ne marchera tout simplement pas.
C'était pas les mêmes spécifications.
C'était pas les mêmes réseaux, en fait, tout simplement.
Moi, j'ai vécu au Japon en 2004. Je me souviens avoir été choper mon téléphone en arrivant, j'ai complètement halluciné. Tu vois, j'avais effectivement un Nokia à Paris, puis là-bas, je me suis retrouvé avec un téléphone Sony incroyable, bourré de technologie et minuscule. Et je jouais d'ailleurs à quelques petits jeux que tu pouvais télécharger gratuitement ou non. À l'époque, c'était vraiment le début du boom, quoi, du gros boom qui a fait que le marché du jeu vidéo japonais a complètement switché.
On parle de l'essor du jeu mobile au Japon, mais je pense qu'on peut aussi mentionner le jeu social, parce que le jeu social a bien marché là-bas, et je pense qu'il marche toujours bien, alors que dans d'autres pays, ça s'est déjà essoufflé.
Au Japon, jeu mobile égale jeu social. On n'imagine pas aujourd'hui un jeu iPhone ou quel qu'il soit, enfin on n'imagine pas un jeu smartphone ou tablette sans dominante sociale et sans être autre chose qu'online aujourd'hui.
C'est le premier élément sur lequel on réfléchit en game design quand on crée un jeu.
Clairement, et le Magna Memoria, pour ne pas le citer, tout est axé autour du social, de l'interaction entre les joueurs, et ça rejoint énormément une grosse tendance japonaise, c'est qu'au Japon, le multijoueur, c'est pas du PVP, c'est pas une personne contre une autre personne, c'est tous ensemble, on fait de la coopération pour atteindre un objectif. Et c'est pour ça que Monster Hunter fonctionne bien, etc. etc. C'est le social et le multijoueur, c'est de la coopération au Japon. Et du coup, ça va avec l'essor du jeu mobile, qui est donc social et multijoueur, vu que tout est connecté avec des réseaux.
D'accord. Donc ça naît dans le début des années 2000. Mais bon, le marché japonais des consoles, le marché traditionnel, on va dire, hein, pour simplifier les choses, a continué à prospérer. Cela dit, on pense par exemple à là, on est à l'époque PS2. Vous voyez, hein, c'est les Metal Gear Solid, c'est encore une grande domination tout de même du jeu japonais, mais aussi le début du renouveau du jeu occidental, américain, européen, qui s'était déjà bien amorcé avec la première PlayStation, qui s'est confirmée avec la PS2 et qui allait finalement dans les années 2010, finalement la dernière période, la plus proche de nous, au moment où le jeu japonais commençait un petit peu à s'isoler, à être en déclin, on va dire, en termes technologiques, peut-être même en termes d'innovation, etc. Le jeu occidental, lui, avec ses mondes ouverts qui arrivaient à ce moment-là, et que les Japonais n'arrivaient pas forcément à suivre en termes technologiques, on expliquera tout à l'heure un peu pourquoi de ton expérience de développeur, les choses se sont voilà, progressivement.
Il y a aussi beaucoup le jeu en ligne.
Et
parce que
ligne, le,
ça, ça a beaucoup joué. Et comme on a vu avec Nintendo, par exemple, les constructeurs japonais ont eu un peu plus de mal à s'intéresser aux jeux en ligne, tout simplement.
Je pense que ça, c'est vraiment culturel. Le jeu vidéo reste quelque chose de social au Japon. Et même pour aujourd'hui, les plus gros hits sur mobile, ce qui va se passer, c'est qu'on joue avec les personnes... on jouerait tous les trois ensemble, enfin quatre avec Poufy, mais
avec Pouf le Gain.
mais on serait pas en train de jouer online sur des serveurs, etc. Donc ça explique aussi que le jeu online reste vraiment de la niche et qu'à côté de ça, les plus gros jeux sur que ce soit sur console portable ou que ce soit sur sur téléphone, c'est vraiment des jeux auxquels tu joues avec les gens qui sont autour de toi en fait.
Mmh. C'est pour ça que je me souviens des jeux qui sortaient sur PSP ou même sur la DS et ils mettaient vachement en avant dans la communication le fait qu'il y ait le ad hoc, tu
le
sais,
ad-hoc, le coop, etc.
Le jeu en local. Ouais. Et nous, quand on voyait des jeux arriver, on se disait, ah, c'est chouette, il y a de la coop, mais de la coop en ad hoc uniquement. Alors que ouais. dans notre entourage proche, on n'avait pas forcément quelqu'un d'autre avec une PSP.
Ah, nous, on avait complètement switché sur le jeu en ligne.
Et voilà. Ouais, je me rappelle d'ailleurs à l'époque, sur la PSP, Sony avait développé un truc sur la PS3 qui te permettait de simuler du ad hoc pour jouer en ligne.
Ouais.
Avec
de créer des
personnes.
Tunnels.
Des tunnels ad hoc pour l'Occident, etc. Ils avaient fait ça.
C'est vrai, exactement.
Ouais.
Et
ils appelaient ça
pas
le
mal
capitaine
jeux,
d'ailleurs.
Pardon ?
Ils appelaient ça le capitaine.
Le capitaine ad hoc, bien sûr. Bien sûr.
Voilà, je peux partir.
Donc, c'est con que j'ai pas les petits effets sonores là pour mettre un petit.
Non, c'est pas plus mal.
Dans tous les cas, le jeu occidental a vraiment ressurgi dans ces années-là. Et entre 2002 et 2010, voilà, pour parler un petit peu de la part du jeu vidéo japonais dans le monde, hein, les parts de marché représentaient 50% dans les années 2002, pour atteindre plus finalement que 10%.
Sur le marché traditionnel.
Sur le marché traditionnel. Dans le monde, donc, c'est à peine 8 ans plus tard. Donc, il y a véritablement eu un switch qui s'est opéré, un reversement total du jeu japonais sur les plateformes mobiles. Alors, on va s'intéresser un petit peu aux acteurs du jeu vidéo japonais et notamment des anciens grands, des nouveaux grands, de tout ce qui a un petit peu changé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'état un petit peu de santé des anciens grands, on va dire. On parle là de développeurs comme Square Enix et d'éditeurs comme Capcom, Sega, Bandai, etc. Quelle est leur place aujourd'hui sur le marché du jeu vidéo japonais?
Alors, justement, c'est ça.
Sur le
marché japonais ou sur le marché global?
Et sur
en
le
fait.
Marché global, bien
c'est
sûr.
Toute la question. Le meilleur exemple qu'on puisse trouver, je pense que c'est Square Enix.
Ouais.
C'est une boîte qui, parce qu'elle a compris qu'aujourd'hui, le marché japonais n'est plus sur console de salon, va développer au Japon, pour le Japon, avec tous ses studios, elle va vraiment les réaffecter sur des productions mobiles qui peuvent se faire en un an ou deux ans avec 40-50 personnes. Et à côté de ça, a acheté plein de studios occidentaux pour développer les Tomb Raider, pour développer les Deus Ex, etc. Et qui vont, eux, pouvoir faire, avec des grosses équipes de plusieurs centaines de personnes, pour genre Montréal, etc., qui vont pouvoir donc développer à fond sur les consoles de salon. Et finalement, Square Enix, à part Final Fantasy et Kingdom Hearts, et le fait que les épisodes canoniques, ça met globalement 10 ans à venir, quoi que ce soit pour le FF15 ou pour le Kingdom Hearts 3, c'est la preuve qu'au Japon, aujourd'hui, faire du jeu AAA super avec plusieurs dizaines, centaines de personnes pendant plusieurs années, c'est très compliqué de lutter face aux occidentaux. Et tous les géants japonais, Square, Capcom, Konami dans une moindre mesure, on pourra y revenir un petit peu après, se sont super occidentalisés pour parler au global et en interne ont tout focalisé sur mobile parce que c'est ce qui génère de l'argent aujourd'hui au Japon, quoi.
Square Enix, c'est l'exemple de réussite sur les différents
Sega
marchés
aussi.
Pour une société japonaise.
Et Sega aussi, vraiment. Au niveau du marché japonais, Sega, en fait, se porte très, très bien.
D'accord. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement,
on a une vision
un peu
tronquée, loser
de Sega parce que, bon, ils se sont retirés avec perte et fracas du marché des consoles traditionnelles. C'est un constructeur après la Dreamcast, donc plus qu'un éditeur multiplateforme. Et puis aujourd'hui, beaucoup plus, finalement, un éditeur mobile.
Un éditeur mobile.
Bah, non, c'est juste que tu vois, les dernières nouvelles qu'on a de Sega, enfin les dernières en date, c'est la vente, c'est la mise en vente de leurs locaux, leurs locaux historiques de San Francisco, achetés pendant la période de Fast, pendant la croissance incroyable à l'époque de la Mega Drive. Et là, il y a quelques mois, ils ont annoncé la fermeture de ces locaux, le départ à la retraite.
Mais c'est un parfait exemple en fait, parce que justement, Sega va se recentrer énormément sur le marché japonais. Ils ont plus en fait besoin d'avoir de studio à San Francisco, vu que 99% de leurs jeux maintenant ils sortent que au Japon et ils sont recentrés sur le Japon. Et tu regardes par exemple le Yakuza qui est sorti il y a quelques semaines,
c'est leur licence phare, quasiment la seule aujourd'hui.
C'est peanuts quoi. Ça s'est vendu PS3 et PS4 à genre 250 000 exemplaires. C'est honnêtement, c'est rien comparé à ce que pouvaient des épisodes canoniques il y a encore quelques années. Mais à côté de ça, ils ont plein de studios qui bossent sur mobile et qui rapportent plein d'argent sur mobile. Quoi.
Par contre, tu vois, cette concentration sur le mobile, elle est aussi ressentie chez nous parce qu'ils ont le studio Command Light qui est situé en Angleterre et ils font pas mal de jeux mobiles qui sortent chez nous. Et là, le fait qu'ils ferment leurs locaux de San Francisco et qu'ils déménagent dans des locaux plus petits, ça a encore une fois accentué ce virage vers le mobile et, faut pas oublier, vers le PC. Parce que Sega, il y a quelques années, ils ont racheté pas mal de studios PC qui font du jeu stratégie, ouais. Voilà, du STR, et donc ça marche plutôt bien pour eux. Mais clairement, le Sega que nous on a connu
n'existe plus.
Depuis, et ce qui est marrant, c'est que quand ils sont passés éditeurs tiers, on disait déjà c'est plus notre Sega, etc. Mais finalement, ce Sega là est beaucoup plus proche du Sega qu'on a connu que le Sega qui existe aujourd'hui. Il y a quasiment plus de jeux. D'ailleurs, le Yakuza 5 qui est sorti il y a presque 2 ans au Japon, quand nous on va l'avoir cet été, ça sera que du numérique, il sortira pas en boîte, et c'est via Sony. Sega, ils peuvent même plus sortir leurs jeux eux-mêmes.
Ils pourraient
parfaitement, mais ils n'ont pas d'intérêt en fait.
Oui, ça leur fait perdre plus d'argent. Exactement.
Mais alors, exactement. Le Sega du Japon, vu du Japon, alors ça donne quoi?
Ça se porte très bien. Sega se porte très très bien, vraiment.
Ils ont diversifié leurs
mobile
activités.
Et l'arcade à fond, ça se passe très très bien pour eux.
Oui, et là c'est vrai que ces derniers temps aussi, ils ont annoncé qu'ils voulaient faire des tentatives dans le ciné. Utiliser leur licence pour faire du cinéma. Ils prennent la température un peu. Bah, on sait qu'il y a Sonic Boom, bon ça c'est pas du ciné, c'est de la télé qui est à la télévision en ce moment avec un jeu totalement désastreux.
Oui, mais le concept cross-média en lui-même est carrément sympa pour les gosses, je pense, même si bon, le jeu était pourri.
Est-ce que en termes d'image au Japon, Sega est perçu comment? Est-ce que c'est toujours perçu comme une grande boîte ou...
Non, mais enfin, faut pas non plus se mentir, hein, c'est jamais été aussi gros et ça sera jamais aussi gros pour moi que Nintendo ou Sony dans la tête des gens, mais je pense que vraiment on a déjà, je pense que les Japonais, on leur parle de Sonic aujourd'hui, les personnes qui ont mon âge ou un peu plus jeune, on sait pas trop ce que c'est en fait. Et quand on parle de Sega, c'est de l'arcade, énormément d'arcade, parce que, mais en fait, même si c'est pas forcément énorme en termes de vente et d'argent rapporté, ça donne une image énorme, parce que quand t'es à Tokyo et que tu vois les salles d'arcade avec les énormes logos Sega.
Quels sont les titres Sega qui
En fait Sega, en plus de faire des jeux, c'est surtout les salles d'arcade en fait qui possèdent, et dedans en fait t'as plein
les
de
les centres Sega,
exactement,
Sega Center.
Voilà, exactement. Et t'as ça et t'as le mobile, tu regardes dans le top 20 grossing sur iPhone, t'as à chaque fois t'as 3 ou 4 jeux Sega qui sont toujours là quoi.
Dans les petits jeux mobiles qui sortent, ça sort avec
mais justement c'est
de
pas
fou,
des petits jeux en fait, c'est un truc ça a des cycles de développement qui sont plus courts, mais les jeux en fait sur mobile, globalement, soit ça fonctionne vite rapidement, auquel cas les jeux peuvent rester dans des tops pendant plusieurs années, donc en fait c'est pas forcément, les gens passent pas forcément rapidement, c'est pas vraiment du snack gaming. Les gens qui commencent un jeu mobile peuvent y jouer pendant 1, 2, 3 ans très facilement, mais par contre si jamais le jeu bide, en général il fait pas long feu, on le retire directement et on passe à autre chose, et c'est quelque chose qu'on peut se permettre justement parce que c'est des jeux qui coûtent beaucoup moins cher à développer.
Et un éditeur comme Sega sort combien de jeux mobiles c'est quoi, c'est un par mois, c'est
je pense qu'on parle de je vais pas dire de bêtises parce que c'est j'ai pas de chiffre directement, mais je pense qu'on parle d'une dizaine par an. On parle d'une dizaine par an.
Une dizaine par an, ouais. Donc c'est un rythme assez énorme.
Square Enix en sort beaucoup plus encore, par exemple.
Ah bon ?
Ah oui, Square Enix, c'est vraiment un ou deux par mois. Ouais.
Un ou deux par mois.
Oui.
D'accord. Avec à chaque fois, donc on oublie très très vite les jeux qui marchent pas, et puis on attend une espèce de gros succès.
Chacun attend son Puzzle & Dragon, qui est le jeu de Gungo, qui a redéfini le jeu mobile en fait un petit peu au Japon.
Et peut-être aussi que les jeux qui fonctionnent bien sont soutenus plus longtemps. Peut-être qu'après, oui. Il y a plus de nouveaux contenus qui sont ajoutés. Exactement. Sur une période plus longue que
sur un jeu console. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement possible sur iPhone aujourd'hui avec les updates, etc. Et le fait que globalement, les jeux n'ont pas de fin. C'est-à-dire que si on prend comme exemple Puzzle & Dragon, par exemple, en fait, c'est un jeu qui n'a pas de fin, vu que l'objectif, c'est de grinder pour gagner des nouvelles cartes, des nouveaux monstres, pour les faire level up, etc. Et pour jouer avec ses potes. Vu que c'est dépendant de plateformes qui sont toujours connectées à Internet, etc., il y aura toujours des updates parce que justement, si on veut que ça reste dans les tops, chez Apple par exemple, il faut que ce soit updaté en fait. Sinon, ça redescendra parce qu'il y aura moins de visibilité, etc.
Ouais, dans tous ces jeux-là, parce que nous, forcément, le gros des jeux mobiles japonais, on n'y a pas accès.
Exactement.
Très peu sortent chez nous. Dans ceux-là, là, c'est une question que je te pose, il n'y a quasiment pas de scénario en général.
Alors, non, je suis pas. Non, il y a du scénario. Je prends par exemple Magna Memoria, le jeu sur lequel. Enfin, mon jeu à moi, le jeu du studio. Ça a été écrit, le scénario a été écrit par un des gros écrivains de la série des Tales of. C'est des jeux, alors Puzzle & Dragon en l'occurrence il n'y en a pas, mais des jeux qui fonctionnent très bien, du genre le Shiloneko Project de Coloplay, etc. C'est vraiment des RPG avec des gros scénarios qui n'ont rien à envier au Final Fantasy, Tales of, etc. sur console
de
salon.
Qui se joue pareil, vu du dessus, petit personnage, donjon.
Le gameplay en l'occurrence est souvent très différent, c'est des sessions assez courtes avec des missions. Par exemple, le Shiloneko Project qui traîne dans le top 10 depuis pas mal de mois, voire années, ça se joue uniquement avec le pouce et c'est proche par exemple d'un gameplay qu'on va avoir sur DS, etc. Avec un gameplay simple, mais c'est des sessions très courtes. Mais l'histoire en général est super développée en fait, beaucoup plus qu'on peut le croire.
Et en termes d'expérience de jeu, parce que je sais pas si t'es au courant, quand nous on parle sur Gameblog de jeux mobiles par exemple, il y a beaucoup de commentaires, c'est never, ou à partir du moment où c'est mobile, ça n'existe pas, tu vois, les gens passent tout de suite à autre chose, ça ne les intéresse pas. Est-ce que tu arrives à avoir dans tous ces jeux-là, en termes de sensations de jeu, des expériences vraiment plaisantes?
Qu'est-ce
des trucs
qu'on cherche
qui pourraient être aussi marquants que ce que tu pourrais avoir sur une console avec ta manette?
Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Qu'est-ce que tu entends par qualité d'expérience? Si par qualité d'expérience, c'est profondeur de gameplay, profondeur de système de jeu, profondeur d'histoire, oui, je te garantis qu'aujourd'hui, sur mobile, on a des trucs qui sont aussi bons, voire meilleurs que ce qu'on a sur console
et
de
c'est
salon.
C'est des modèles gratuits tout le temps ou c'est freemium?
D'autant plus au Japon, le free-to-play, ça domine totalement. Mais la monétisation japonaise est très différente de la monétisation occidentale, en fait. Ça fonctionne beaucoup sur le système de gacha.
D'accord.
Donc, qui est...
C'est
de la loterie pour gagner de nouveaux héros, etc., etc. Mmh.
Parce que ouais, c'est, tu sais, quand on a certainement eu pas mal de mauvaises expériences, tu sais, des utilisations de licences connues balancées à la va-vite sur mobile, où après tu avais ce système de stick virtuel et de boutons virtuels où ça essayait de reproduire un gameplay console sur un écran tactile, et après la précision et les sensations n'étaient pas forcément bonnes, et ça je pense que ça a dégoûté pas mal
je pense qu'on était, bon, malheureusement Gameloft, mais bon, si c'est pas mon studio, je pense qu'on est responsable de un petit peu cette période là beaucoup de jeux vidéo sur mobile ont tenté de singer le jeu sur console, et
mais des développeurs que tu citais en référence comme Square Enix le font beaucoup aussi, parce que finalement ils ressortent pas mal d'anciens jeux.
Ouais.
Alors je sais pas quelle est la part d'anciens jeux qui portent sur mobile
majoritairement nouveaux des nouveaux jeux ou des portages réadaptés, par exemple les Final Fantasy, etc., qui sont sortis. C'est le 1, 2, 3, bon, c'était des portages 3DS il me semble, mais le gameplay a vraiment été bien réadapté, etc., c'est parfaitement jouable.
Ils font plus de jeux nouveaux, quoi.
Ah oui, je te garantis qu'il y a plus de nouvelles
Square Enix,
IP,
Sega, etc.
Totalement. Et c'est tout le bien en fait qu'a fait Puzzle & Dragon au mobile japonais, c'est qu'il a vraiment défini comment devait être un jeu qui fonctionne bien au Japon.
Modèle, quoi.
En gros, c'était un petit peu comme Gears of War a défini ce qu'était le TPS à partir de Gears of War et pour depuis 10 ans.
Puzzle & Dragon
a défini ce que devait être le jeu mobile pour les prochaines années au Japon.
D'accord. Et donc tout le monde s'inspire maintenant de chez ces vieux éditeurs, chez ces vieux briscards de Square Enix, Capcom, Sega, Bandai,
etc. Ils se sont totalement renouvelés, ouais. Voilà. Ouais, bien sûr.
Après, il y a quand même un cas particulier, c'est Nintendo.
Nintendo, oui, bah Nintendo. C'est super intéressant Nintendo parce que c'est à la fois symptomatique de l'âge d'or du jeu vidéo traditionnel, voire trop traditionnel, et puis à la fois là, le deal qu'ils ont signé avec DNA qui montre que
même eux
ils se rendent compte que non seulement ils doivent le faire, mais en plus ça peut être un nouvel Eldorado.
Oui. au niveau du Japon, mais surtout même au niveau international, parce qu'on ne sait pas exactement ce que va donner concrètement cette association avec DNA, mais en gros il s'agit vraiment de créer une plateforme. Simplement la différence de Nintendo, c'est quand même que eux ils le font non pas pour connaître des succès directement sur mobile, évidemment ils ne feront pas cette économie, mais c'est de ramener toute une frange de joueurs mobiles vers les consoles traditionnelles
clairement
de Nintendo.
Nintendo, c'est aussi un constructeur. Ils veulent bien évidemment vendre un maximum de consoles, mais t'as parfaitement raison en fait, dans le sens où aujourd'hui sur console, que ce soit de salon ou portable, on a un petit peu atteint le maximum. C'est-à-dire que bon, grosso merdo, on retrouvera jamais de consoles qui vend plus qu'une PS2. Ça n'existe plus. Et même si les consoles actuelles vont très bien se vendre, jamais la 3DS fera ce que fait la DS, même s'il y a une autre prochaine console portable après Nintendo, jamais.
Parce qu'il y a eu une révolution.
Ça va, ça fait exactement. Tout le monde est passé sur mobile, et du coup, Nintendo, à mon avis, ce qu'ils essayent de faire déjà, c'est tâter le terrain du mobile avec une des entreprises qui a le plus d'expérience au monde là-dedans, DNA, et d'un autre côté, récupérer des users, comme tu dis, mais aussi, à mon avis, préparer la transition, si jamais transition il doit y avoir dans vraiment quelques années, si jamais vraiment leur prochaine console NX machin fait
Nintendo
un bide, en fait.
NX,
si jamais, voilà.
Parce que c'est ça, que moi c'est vraiment dans cette histoire d'alliance entre Nintendo et DNA, c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que cette stratégie officielle d'attirer des gens vers 3DS ou vers projet NX qui viendra après,
n'est qu'une couverture.
Non, non, c'est une couverture, mais surtout, est-ce que ça va vraiment marcher? Parce que je pense aux gens que je vois jouer à Candy Crush dans le métro, ouais, ou à tous les jeux mobiles qui cartonnent. Ces gens-là, si Nintendo leur fait un Mario version mobile, pas un portage, mais un jeu spécialement dédié pour le mobile qui marche super bien, ces gens-là, je vois pas en quoi ça va leur donner envie d'aller acheter une console, parce que ce ne sont pas des gens qui jouent aux jeux vidéo.
C'est tout le défi de Nintendo.
Ouais, c'est pour ça. Je me demande vraiment comment ils vont faire, parce que oui, tu as les hardcore, les fans fidèles, le noyau dur qui, eux, continueront à acheter des consoles Nintendo.
Okay,
ça ne représente pas un public suffisant.
Tu viens de tout résumer. Nintendo, ils peuvent que gagner sur tous les plans, parce qu'ils, dans tous les cas, ils ont le noyau dur de joueurs, surtout au Japon. C'est historique, c'est culturel. Ils seront toujours là, ils seront increvables.
Bah, quand on parle du déclin,
ils sont quand même de moins
en
moins nombreux.
Accepte ou pas le déclin du jeu vidéo japonais, Nintendo figure un petit peu d'exception,
oui,
même si
il
y a quand même l'échec de la Wii U, etc.
Oui, alors Wii U, on est d'accord. Bon, malheureusement, c'est la vie. Mais sur la 3DS, aujourd'hui, tu regardes les top 10 de ventes mondiaux, japonais annuels. C'est le top 10. T'as 9 jeux sur 10, c'est des jeux Nintendo. C'est des jeux qui continuent à vendre par millions et qui continuent à vendre énormément auprès des enfants, parce que tu vas pas forcément acheter un iPad ou un iPhone à son gosse, parce que c'est connecté à Internet, on sait pas trop, tandis que Nintendo...
Ça coûte cher.
Et que ça coûte très cher, bien sûr. Même si, bon, les Japonais ont de l'argent, donc je pense que de ce côté-là, ça va. Mais c'est surtout qu'une 3DS, globalement, on est sûr d'avoir des jeux parfaitement finis, sans bug, sans problème de PEGI, enfin pas de PEGI, excuse-moi, de Zero, comme ça au Japon,
l'équivalent du PEGI.
Exactement, on va pas se retrouver avec un jeu super violent, et ça, en gros, globalement,
il y a la confiance.
C'est la confiance, parce que papa, maman jouaient au Super Nintendo quand ils étaient gosses, ils savaient parfaitement comment était Mario, comment étaient les RPG, Set of Mana, etc. Et aujourd'hui, acheter une 3DS avec Yo-Kai Watch à sa gamine de 10 ans, c'est non seulement la laisser dans son univers, parce que c'est quelque chose, je pense qu'on oublie énormément, mais les enfants aiment vraiment avoir leur univers bien eux, qui est différent. Et si papa maman utilise l'iPhone, l'iPad, etc. pour jouer, ça va être en l'occurrence au Japon à Puzzle and Dragon, Tsum Tsum et ce que tu veux, eux ils sont contents d'avoir leur univers qui va rejoindre les dessins animés, etc., comme ça a été le cas avec Pokémon il y a longtemps, et puis aujourd'hui avec Yo-Kai Watch. Et ça, Nintendo, ils sont garants de ça au Japon. C'est vraiment culturel.
Ouais, mais est-ce qu'on risque pas, enfin, quand je parle de risque, hein, c'est vraiment entre guillemets, de se retrouver avec un double public pour Nintendo, c'est-à-dire que sur les consoles classiques, il n'y aura plus que les enfants.
Ouais.
Et sur mobile, tous les adultes.
Est-ce que c'est pas déjà
le cas? c'est pas un problème en fait.
Bah
c'est
oui,
très bien comme
ça. Le public est peut-être pas suffisamment vaste pour garantir le succès d'une console. Mais... parce que ça fait quand même la production de hardware, toutes ces choses-là, ça coûte de l'argent. Et on sait que les producteurs de consoles, en principe, Nintendo, c'est un peu un cas particulier, mais ils font le gros de leur argent sur les ventes de jeux. Oui. Et si après, tu n'as plus que les enfants et que une poignée de jeux enfantins, c'est pas suffisant pour
que,
faire
je pense que la NX, ça répond exactement à ce genre de problématique, à savoir faire les deux.
Ouais, ils auront des jeux adaptés.
J'en sais rien, mais j'imagine, enfin, de ce qu'on sait, les échos, etc., que tout le monde a au niveau de NX, que c'est une console qui va être à la fois salon, portable, peut-être mobile, etc. Et puis le deal qu'ils ont avec DNA, c'est évident qu'ils veulent les deux tableaux. Et c'est pour justement faire ce que tu viens de dire, qu'ils s'orientent sur les prochaines années avec ça, quoi, et qu'ils vont, à mon avis, enterrer la Wii U vite fait, bien fait, parce qu'ils peuvent pas rester dans cette impasse, en fait.
Alors, tu voulais aborder également un autre cas particulier parmi les anciens
oui,
grands, on va
qui
dire.
Qui fait l'actualité en plus.
Konami.
Ouais, Konami. Konami. Oui, on peut en dire plein de trucs de Konami, c'est génial.
Je crois qu'ils ont diversifié déjà énormément leurs activités. Il y a pas mal d'éditeurs qui font ça, on sait que...
C'est plus que diversifié, c'est, ouais. C'est historique. Konami, c'est pas uniquement des jeux vidéo, c'est des salles de sport qui fonctionnent vachement bien. Mmh. On a du mal à se rendre compte de ça de France, mais Konami, c'est aussi beaucoup de jeux de casino, les bandits manchots, les pachinko et tout ça, ils en font à fond. Et ça rapporte une thune monumentale, en fait. Ouais. Et c'est je pense que c'est une entreprise qui est très bien gérée, mais qui voulait, en fait, parce que dans la tête de trop de personnes, Konami est égal à Kojima, etc. Lui devait faire sa star, etc. Et ça rejoint une autre tendance du jeu plus traditionnel sur Japon, au Japon, c'est qu'on veut tuer, en fait. On veut tuer les noms du jeu vidéo. Et c'est limite mondial, ça, je pense. On veut qu'il y ait de moins en moins de gros créateurs. On veut mettre en avant les marques.
Au Japon, je sais pas, dans le reste du monde, je pense que c'est plutôt le contraire. On a envie justement de starifier un petit peu des personnes.
Cite-moi aujourd'hui deux ou trois grands noms chez Ubisoft.
Michel Ancel.
Ouais, qui
t'avais
limite fait Raymond
pendant un temps. T'avais voilà. Patrick Désilets.
Exactement, il y avait. C'est, en fait, on les écarte parce qu'on veut en finir avec ça.
Ah, parce que pourtant nous d'ici on avait l'impression qu'on était justement dans une phase, on n'était pas en train d'en sortir, on était dans une phase de starification
dans une vocation plus mature, donner un peu de maturité au jeu vidéo, de la même manière que dans le cinéma il faut des têtes d'affiche, des grands
réalisateurs,
etc. Moi je suis personnellement d'accord avec vous, mais après justement tu regardes Kojima, c'était un peu le dernier des Mohicans, quoi.
Au Japon, ouais.
Ouais, enfin,
il y a Miyamoto aussi.
C'est vrai qu'on met plus en avant aujourd'hui les équipes, par exemple sur Final Fantasy. Il y a quand même toujours à plus ou moins une tête d'affiche sur les Final Fantasy. Mais souvent, c'est une équipe de 2-3 personnes.
Tu trouves ? Sur le 15, bon, il y a le producteur qu'on voit un petit peu pour les conversations internationales, etc. Mais encore.
Tanagoshi chez Sega pour les Yakuza.
Oui, mais voilà, Yakuza, c'est 200 000 ventes, mec, ça n'existe plus en fait.
Ouais. C'est triste parce que j'aime bien Yakuza.
Ah, mais moi aussi, c'est pas la question. Moi je reste un joueur assez traditionnel, PS4, etc. Quoi, mais je parle vraiment
des
tendances du pays.
Ce qui est intéressant, c'est
que
ce que tu es en train de dire là, c'est que selon toi, de ton point de vue du Japon, le conflit entre Konami et Kojima Productions, et Hideo Kojima en fait, il est de cet ordre là. C'est une volonté de Konami,
je pense,
qu'il n'y ait plus de tête d'affiche.
Il y a ça, et puis le fait de bien reprendre les rênes sur son entreprise que beaucoup trop de gens, surtout à l'international.
Mais qui est selon toi extrêmement bien géré, en tout cas.
Ah, mais c'est pas selon moi, ça c'est la réalité.
Parce qu'en dehors du Japon, je veux dire, sortie de PES et de Metal Gear, Konami est devenu inexistant, et la plupart de ses filiales, on parle de la France mais aussi d'autres, sont plutôt en effectif réduit et en difficulté.
Ce sont des filiales qui concernent uniquement le jeu vidéo traditionnel, voilà. Duquel est en train de s'éloigner énormément Konami.
Et même PES, tu vois, PES qui était un produit très fort pour Konami pendant longtemps, les ventes elles se sont effondrées ces dernières années.
Bah, face à FIFA, tu peux rien faire, mais au Japon, PES reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que FIFA.
Ouais, et quand lis le je sais pas si tu as vu, c'est cette apparente fuite de messages privés entre quelqu'un de chez Konami, une source interne chez Konami et un journaliste. On en a parlé sur Gameblog il y a quelques jours, qui expliquait que le big boss de Konami en avait tout simplement marre de Kojima parce qu'il tirait trop la couverture sur lui. Ses jeux étaient extrêmement longs
à
développer.
Ça confirme ce qu'il est en train de dire Axel.
Oui, ça confirme complètement. Était trop long à développer, coûtait trop d'argent. Et c'est assez radical, mais dans ces fuites, après, ça reste des rumeurs parce qu'il n'y a pas eu de confirmation ni rien. Mm-hmm. Mais il parlait quasiment d'un désir de Konami d'arrêter tout simplement le jeu console. pour se concentrer uniquement sur le mobile et toutes ses autres activités.
Et au niveau jeu mobile, ça reste un des grands du coup au Japon.
Jeu mobile, jeu arcade aussi. Ils sont en train de.
Alors, on va parler de l'arcade tout à l'heure. Il y a une espèce de retour effectivement.
Un retour à l'arcade qui est mené en force par Konami, qui justement, ils développent du mobile et ils adaptent les licences mobiles des autres éditeurs en arcade. Ça, c'est une grosse tendance aussi en ce moment.
D'accord.
J'ai cru voir des. Bah, je sais pas si c'est Konami qui fait ça, mais je crois avoir vu des bornes Angry Birds ou des trucs comme ça. Pas Flappy Bird. Enfin, je sais plus. J'ai cru voir un jeu mobile très connu avoir une borne d'arcade au Japon.
Angry Birds, j'ai jamais vu, mais le jeu de Mixi Monster Strike, qui est deuxième des ventes au Japon, ça représente plusieurs millions d'euros par semaine.
C'est un jeu japonais ?
Monster Strike, ouais. Ça a été développé par Mixi, qui est un ancien réseau social un peu tombé en désuétude, mais justement qui se renouvelle vachement avec le jeu vidéo en ce moment. Et c'est Konami qui adapte tout ça en arcade. Et tu vois aujourd'hui dans le métro japonais, à la télé, etc., ils balancent les pubs à fond, etc.
Justement, alors ça c'est aussi assez intéressant parce qu'on est assez loin de ça, il n'existe pas vraiment chez nous. Qui sont les nouveaux géants du jeu vidéo japonais? Alors on a beaucoup parlé de Gris parce qu'ils ont essayé de s'installer en Europe, ça a été un échec en Europe et aux
États-Unis. Gris qui est beaucoup retombé depuis.
Gris aujourd'hui c'est has-been.
Oui, soyons honnêtes. Ouais. C'est enfin ils ont autant DNA a vachement réussi à bien se ressaisir. Ils étaient dans la même situation que Gris il y a 2-3 ans quand je suis arrivé.
DNA c'est aussi Mobagé, hein, c'est ça.
Mobagé est une des filiales de DNA.
D'accord. Voilà. Donc DNA c'est le groupe.
Exactement.
Donc DNA, c'est un ancien nouveau grand.
c'est un ancien grand. C'était le nouveau grand il y a 10 ans, qui s'est bien pété la gueule et qui s'est vachement bien relevé.
Qui s'est vachement bien relevé, qui aujourd'hui a des parts chez Nintendo et vice versa.
Ouais.
Et alors ceux qu'on connaît pas. Là, t'as parlé de Mixi par exemple. Alors Mixi par exemple, c'est quoi les gros titres de Mixi?
Bah ils en ont un.
Ah ouais, en gros c'est ça qu'ils exploitent.
Ils en ont un, mais qui cartonne un truc.
Comment
de
ça s'appelle?
C'est Monster Strike. Il vient de fêter ses 15 millions d'utilisateurs. Je sais pas si vous en comptez sur un territoire. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 10 au Japon qui joue à ce jeu.
C'est énorme.
C'est monumental. C'est incroyable.
C'est un peu votre Candy Crush.
Pas. Non. Et encore, c'est pas le plus gros. Hein. C'est un des plus gros, mais c'est pas le plus gros. Il y en a qui montent plus que ça encore.
Alors, ça serait qui le Candy Crush japonais? Puzzle and Dragons.
Puzzle and Dragons.
Et ça, c'est quelle boîte alors?
C'est Gungo.
Gungo, alors c'est une société coréenne en fait ça, hein,
alors,
à la base.
Ils ont des studios en Corée, mais ils ont leur siège social au Japon.
D'accord, voilà. Ok, donc Gungo qui a notamment racheté il y a pas longtemps Grasshopper, le studio de Suda 51, donc
et qui
No More Heroes et compagnie.
Je pense qu'en fait ils l'ont acheté et puis ils l'ont assimilé parce que il a quoi de prévu 51 en ce moment?
C'est assez je sais pas.
Voilà, tu vois, c'est ça.
Un futur beat, c'est certainement.
Mais voilà, en fait,
moi j'adore les jeux de Suda 51.
Je pense qu'ils l'ont racheté un petit peu pour l'image, etc. Et puis quand ils ont vu que finalement le jeu, le mec, je connais pas, mais je pense que vu il doit être intenable en fait comme mec.
Gungo a sorti aussi des jeux sur PS Vita. Je me souviens à son lancement, il y avait cette espèce de Phantasy Star Online.
Qui est tiré de Ragnarok
Odyssey.
Qui est en fait un spin-off de leur gros MMORPG d'il y a quelques années en fait.
Et ça, c'est pareil, c'est aussi une grosse licence mobile, Ragnarok.
C'était le cas il y a 10 ans, c'est fini.
C'est fini. Donc même eux, ils ont laissé tomber, ils ont d'autres grosses licences.
Et Gungo, ils ont la cash machine infernale quoi. C'est l'équipe, je sais pas, c'est globalement Candy Crush sur un territoire mais x10 quoi.
D'accord. Là on parle de Puzzle and Dragons.
Puzzle and Dragons, bien sûr, c'est ouais.
Et puisqu'il y a plein de versions différentes de Puzzle and Dragons avec différentes, des partenariats avec différentes marques.
Il y a le jeu principal où en fait toutes les 2 ou 3 semaines, tous les mois, ils vont faire des partenariats qui sortent de nulle part avec tout le monde. Ça va être autant Dragon Ball que Batman, que des marques de voitures, que ce que tu veux. Ils mettent de tout en fait, et c'est pour gagner un maximum d'utilisateurs, parce que le mec qui n'a pas encore posé Puzzle & Dragons et qui va aimer Batman, il va télécharger pour Batman et finalement il va se retrouver avec le jeu. Et à côté de ça... ils ont sorti un RPG à la Pokémon il y a 2 ans je crois sur 3DS qui pareil a été instant million seller et ils ont Puzzle and Dragon Z.
D'accord. Ça c'est la version DS donc.
C'est la version DS sortie il y a 2 ans. 3DS oui bien sûr. Sorti il y a 2-3 ans, qui est un RPG assez classique qui d'ailleurs a l'air très sympa.
Mais le succès qu'il peut rencontrer sur une 3DS, il est incomparable à celui de...
Oui et non, parce que c'est un jeu qui a vendu, alors admettons qu'il y ait 20 millions aujourd'hui de joueurs actifs de Puzzle & Dragons, ce qui est énorme, hein. C'est une personne sur 7 au Japon joue à ce jeu.
C'est fou, ouais.
C'est colossal. À côté, ce qu'on qualifie de succès en France avec Candy Crush, etc., c'est peanuts, c'est énorme. Et on parle de ça. Mais à côté de ça, si jamais ils ont vendu 2 millions de Puzzle & Dragon Z, c'est des jeux qui sont vendus à 5 000 yens. Ouais. C'est énorme parce que même
oui, parce que la version mobile est gratuite.
Exactement, c'est du free to play. Donc même si, comme d'habitude, c'est qu'une infime portion de personnes qui payent, mais bon,
le fait d'en vendre un bon paquet sur 3DS directement.
Exactement, je pense qu'ils vont pas, ils vont pas se priver, et Nintendo ils vont pas se priver non plus.
Non, on l'a vu il y a pas longtemps.
Exactement, exactement. Voilà, c'est
avec l'adaptation donc et le mélange avec l'univers de Mario.
Et alors ça c'est encore un autre jeu qui va sortir, c'est Puzzle & Dragon
chez nous,
Mario,
chez nous ils seront vendus ensemble.
Mais c'est le même jeu. Ah, tu veux dire Puzzle & Dragon Z et Mario
plus Puzzle & Dragon Mario, ou je sais pas comment ça s'appelle.
Ah, ça je savais pas, d'accord. Au Japon c'est deux jeux séparés.
Voilà, chez nous si je dis pas de bêtises, tout du moins, mais ça sera en un seul et même jeu.
Voilà.
On n'a pas, la même affinité avec cette licence chez nous. Donc,
ça prouve, c'est un moyen de la créer.
C'est un moyen de la créer.
Ça prouve la puissance et l'intelligence de Nintendo de toujours rester sur le côté jusqu'à comprendre ce qui fonctionne vraiment, quelles sont les vraies nouvelles tendances pour s'y adapter et pour vraiment se les approprier.
Ils se sont pris une grosse claque avec la Wii U, mais on voit bien qu'ils sont en train d'essayer de se remettre en ordre de marche.
Certes, la Wii U, c'est un échec cuisant, mais en tant qu'entreprise, Nintendo, ça reste des dieux. Quoi. Je m'en fais pas une seconde pour eux. Quoi. Mmh. Ouais.
Les géants donc du moment, je crois que tu m'en avais cité d'autres. Dans Grim Obagay, ça s'est fait. Dena Mixi, Gung Ho. Ah oui, alors très intéressant. J'aimerais bien que tu nous parles de Line, parce que ça c'est vraiment le truc du moment, quoi.
Alors, bah c'est plus.
Ou alors tu veux dire c'est déjà fini.
Non,
truc du moment. Au dernier Tokyo Game Show, c'était
en 1972, ça marchait bien.
Alors Line,
qu'est-ce que c'est Line?
Alors c'est un. C'est un mélange, en gros c'est WhatsApp Messenger plus Facebook.
Tout ça a mélangé dans
C'est surtout du chat, et c'est beaucoup utilisé au Japon parce qu'au Japon on est en 4G partout et que globalement les forfaits sont hors de prix.
Comment ils se la racontent?
Ah non, mais ça c'est vrai. Ah, mais d'ailleurs,
ils nous snob depuis tout à l'heure. Ouais. C'est has been, les gars.
C'est vrai qu'au niveau de la 4G, je reviens en France, c'est un peu la tiep quand même. Mais,
c'est pas la même 4G.
Ah ouais?
Bah je sais pas, c'est plus rapide.
Donc des gens rentrent dans le métro, c'est fini.
Voilà,
c'est
nous, exactement.
C'est Edge, donc autrement dit rien, quoi.
Mais j'ai vu une émission à la télé, c'était en Corée, c'était pas au Japon, où le mec disait à son guide, tu sais qu'en France on capte pas la 3G dans le métro. Le mec il était là, il rigolait, il disait non, tu rigoles. Il le croyait pas, quoi.
Et donc Line, globalement c'est surtout utilisé pour comme WhatsApp Messenger un petit peu ici pour
c'est un réseau social en fait.
C'est un réseau social qu'on utilise pour le chat, etc. Mais il se diversifie énormément depuis disons un an et demi, où ils deviennent en fait un petit peu à la manière de Google avec le Google Play et Apple avec l'App Store. Ils deviennent une plateforme.
Mais techniquement, c'est une plateforme dans un iPhone, par exemple.
Exactement. Donc c'est une plateforme sous une plateforme. C'est que pour jouer, pareil, un des autres jeux qui il est dans le top 5 au Japon, c'est Disney Tsum Tsum.
Ça c'est le gros hit du moment aussi.
C'est plus que ça, c'est pareil quoi, c'est toujours pareil, c'est le mobile, c'est plus du moment, c'est des jeux qui durent des années. Tsum Tsum est sorti sortir un an et demi, quelque chose comme ça, et il continue, tout le monde joue qu'à ça, quoi.
Pour juste, je te coupe deux secondes pour ceux qui ne voient pas bien ce que c'est. Si vous êtes allé à Disneyland Paris récemment dans les boutiques de souvenirs Disney, bah vous pouvez voir ces petites peluches, bah un peu comme sur les images que Poufy montre. En fait, c'est un visage Disney, mais c'est une peluche qui est comme une saucisse. En fait, c'est une peluche très allongée. C'est un design particulier, et donc visiblement ça cartonne. Et ils en ont fait un jeu vidéo.
Mais c'est un jeu vidéo à la base.
C'est le jeu vidéo avant les peluches.
Exactement.
D'accord.
Et d'ailleurs, ça a été Yo-Kai Watch sort un clone de Disney Tsum Tsum bientôt sur 3DS. D'accord. C'est encore un problème, ça.
Ça, pour y jouer, il faut avoir Line.
Alors, ça, exactement. Tu peux pas y jouer si t'as pas Line. Donc, il faut que t'aies ton iPhone, tu télécharges l'appli sur l'App Store, mais tu dois te connecter avec ton compte Line pour y jouer.
D'accord.
Et c'est pour tous les features sociales, envoyer l'équivalent des vies à tes potes, comme t'as un petit peu sur Candy Crush. Tout ça se passe par Line, en fait.
Oui, d'accord.
Et pour les high scores,
pour 25 ans pour jouer à un
cercle,
jeu.
C'est un cercle vertueux, comme ça, où,
vicieux,
où t'es obligé de créer un compte, de te connecter à l'intérieur de cette application pour profiter de tous ces jeux, etc. Et du coup, tu te reconnectes avec tous tes amis.
Oui, mais en même temps,
tu peux t'envoyer des messages en même temps que tu joues.
Faut comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul smartphone au Japon qui n'a pas Line installé. C'est pas quelque chose d'imaginable de ne pas avoir Line installé.
Comme on voit sur les images, ils ont fait une version arcade de ce truc-là aussi.
Et ça, c'est Konami.
Ah, c'est Konami,
qui l'a développé.
D'accord.
Et c'est encore une fois une belle preuve que Konami, ça se passe très bien pour eux, parce que ça, les personnes font la queue pendant une heure et demie pour y jouer.
C'est fou. Alors que vous vous souvenez que on parlait des fermetures successives à Tokyo et dans les autres grandes villes japonaises, de toutes ces vieilles salles d'arcade suite à un désamour total qu'on imputait justement au jeu mobile. Finalement, le jeu mobile est en train de sauver et de redonner vie aux salles d'arcade.
Mais c'est un truc de ouf parce qu'en fait, le jeu mobile, ça crée maintenant des jeux sur console.
Ouais.
Et ça crée des jeux sur sur arcade. Il ça va créer des dessins animés. Ça crée, ouais. C'est un truc de malade, quoi.
C'est l'inverse mobile... au début. C'est-à-dire, on a dû commencer par adapter des licences connues des consoles sur mobile. Aujourd'hui, c'est le contraire.
Et ça crée des dessins animés, des jeux de cartes, machin. Et la base, c'est la licence mobile aujourd'hui, en fait.
Et tu vas me dire si je me trompe, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de jeux d'arcade maintenant au Japon qui utilisent un système de contenu presque de DLC.
Ouais.
Tu sais, ouais. Des jeux d'arcade qui sont
Déjà,
toutes
les bornes aujourd'hui sont connectées à Internet. C'est pas quelque chose. Enfin, n'importe quelle borne, que ce soit des jeux de combat, des jeux de robots, des choses plus casuales, etc., c'est évident qu'elles sont connectées à Internet et que tu as des réseaux. Tu peux faire du PVP, etc., avec toutes les bornes du Japon. Et tu joues avec un compte. Tu as une carte NFC que tu mets et c'est ton profil à toi avec tes évolutions de stats, etc. Et c'est bien évidemment, tu as tout le temps des mises à jour. Un de mes jeux d'arcade préférés qui est Taiko no Tatsujin, donc le jeu avec les
moi
tambours,
aussi.
Ça je à chaque fois
le jeu
je
de tambourin japonais,
barre,
j'adore.
C'est culte.
Quand j'habitais au Japon, donc c'était en 2004, ouais. J'y jouais quasi tous les jours.
Et ben voilà, tous les mois, tu as le top 5 des ventes de musique qui sont mis dans le jeu, tout le temps. Mmh. Donc, tu as tout le temps des nouveaux contenus et c'est le cas pour toutes les bornes. Quoi. Donc, oui.
Ouais, j'ai vu aussi un jeu qui a eu le droit à une version 3DS, mais c'est jamais sorti chez nous, c'est Dragon Ball Heroes. Et c'est une borne d'arcade, ouais. Où ils mettent des cartes, des vraies cartes physiques que tu peux collectionner, etc. Il me semble que quand tu mets la carte sur la borne, et ça fait apparaître le personnage dans le jeu, c'est ça?
Oui, oui,
et t'as des scénarios ajoutés avec des fois des cinématiques en vrai dessin animé. Il crée des scénarios et tout ça en arcade. Donc
et
ça,
c'est génial. Et c'est en fait, c'est globalement pour faire simple, c'est le cas pour ça, pour plein d'autres jeux aussi. C'est un peu les amiibo. En fait, où tu as des contenus physiques parce que ça.
Qui se rajoute en surcouche.
Exactement, ouais. Et qui rajoute après dans le jeu de la borne arcade, etc. Quoi.
Bah, tant qu'on est dans l'arcade, ouais. Allons-y. C'est quoi les gros succès? Donc, on parlait de Disney Tsum Tsum là, il y a deux secondes.
Ouais.
Il y a également Square Enix qui fait des
Square
gros
Enix,
succès.
Lord of Vermillion fonctionne vachement bien.
Ouais, Lord of Vermillion, alors.
Ouais,
c'est
un MOBA, donc à la League of Legends, etc.
D'accord.
Où tu joues avec des cartes, avec des puces
NFC.
Des puces NFC dedans et tu les
que
déplaces
tu les poses, voilà, on voit ça en image.
Et, bon, et pareil, ça se joue online, etc., que ce soit en ad hoc ou online sur les bornes, ça se joue énormément. Et voilà, le
ça c'est un des gros succès de l'arcade,
ça fonctionne très bien, ouais.
Alors là encore, c'est une impression que j'ai vis-à-vis de toutes les bornes qu'on voit et ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que le jeu en ligne qui a eu beaucoup de mal à s'intégrer, à être intégré au Japon sur console, et en fait finalement très présent, mais
ouais.
En arcade,
oui.
Et sur mobile. Et
oui.
Les gens jouent entre eux, mais pas sur console.
Mais en fait, c'est 100% culturel ça. Au Japon, c'est très courant qu'on n'ait pas d'ordinateur. Aujourd'hui en France,
à la maison, ouais.
C'est ou même, enfin, je veux dire.
Tu sais, c'est pareil, tu manges pas vraiment chez toi en fait, au Japon.
Ouais,
non,
ouais,
c'est
totalement,
vrai.
Totalement.
Tu n'invites pas des gens à dîner chez toi. On va au resto ensemble, toujours.
Moi, ça me fera toujours halluciner, mais j'ai plein de potes. Quand je vais chez eux, je lui dis passe-moi le wifi. Non, désolé, j'ai pas internet. C'est quelque chose de courant.
C'est dans le mobile, ça suffit.
Et en fait, parce que justement, on a des connexions 4G de malade, etc. Le premier terminal d'accès à internet aujourd'hui au Japon, c'est ça, quoi. Et si jamais t'en as besoin pour ton intérêt, etc., tu le passes en mode modem, tu fais ton truc et c'est fini.
Dans ce qui se fait beaucoup, c'est pour avoir
illimité
internet
dans ce cas-là.
Ouais, c'est pas illimité.
Parce que nous, la data, je peux dire qu'elle est pas illimitée. Hein.
Alors, moi, mon Fair Use, il est genre à 8 ou 9 gigas, donc bon, ça laisse de quoi faire.
C'est pas mal, ouais.
Mais c'est parfaitement normal pour un japonais de claquer plus de 100€ par mois de forfait de téléphone. C'est quelque chose de normal.
Bah d'un côté, si tu payes pas de forfait internet à côté,
et d'achat
chez toi...
in-app,
exactement. Ouais, d'achat in-app, bon, ça c'est encore autre chose. Ouais. Et d'ailleurs, ça c'est très intéressant. Je crois, il me semble que c'est qu'au Japon, Google propose, vu que encore une fois beaucoup de Japonais n'ont pas de carte bleue, etc. Mm-hmm. C'est très vieux là-dessus le marché.
Mais
on rapporte les achats in-app sur la facture de téléphone directement.
Mm-hmm. Ouais, ça se fait pas mal chez nous aussi.
Ah, aussi
ça, okay. Ça existe.
Okay.
Ça dépend après des opérateurs.
Mais
c'est pas
justement,
encore globalisé.
C'est fait directement, c'est-à-dire que quand tu achètes sur l'App Store ou le Google Play, etc., c'est directement facturé, non pas sur ton compte bancaire, mais directement sur ta.
Je sais pas. Y compris l'App Store.
Et justement,
parce que nous, l'App Store t'oblige plus ou moins.
Ah, c'est lié au compte iTunes. Apple, iTunes, en
voilà, d'avoir d'acheter des cartes prépayées en général.
Apple,
ça pour les
j'ai pas envie de dire de bêtises, je suis pas sûr, mais en tout cas pour Google, c'est sûr, c'est directement reporté sur ta facture de téléphone les achats dans le Google Play.
D'accord.
Voilà.
Facture de téléphone que tu vas payer en cash à la fin du mois
au
dans
combini,
la boutique.
Tu vas au combini et puis tu rapportes. Non,
ça c'est assez marrant ça.
C'est génial. Ouais.
Moi j'ai pas jamais été au Japon mais j'ai déjà
tu sais,
été
les
en
Allemands,
en Corée
aussi. J'étais encore très attaché au cash.
Et en Corée c'était un peu le même système aussi et tu vas au combini. Enfin là-bas ils appellent pas ça comme ça mais à l'équivalent du combini coréen où c'est vrai que beaucoup de tes achats ou de tes factures tout ça tu peux le faire via des bornes déjà présentes dans le petit magasin. Quoi.
Et d'ailleurs moi qui ai plus de enfin c'est une grosse parenthèse, mais moi qui ai plus de Visa ni Mastercard rien depuis 3 ans, en fait c'est vachement bien parce que t'as vachement plus de contrôle de ta thune. Tu te rends compte de tout claquer en liquide et de pas avoir de prélèvement ni rien, de tout payer par toi-même.
T'as carrément pas de Visa toi.
Si, j'ai un visa. J'ai un Visa, mais j'ai pas de carte Visa.
Pas de carte Visa.
Non, c'est ce qu'on voulait dire. T'as pas de.
Carte
en fait, visa. quand tu viens
c'est
en France, t'es pas emmerdé sans carte.
Si, j'ai ma carte française, tu vois, mais avec mon compte étudiant de l'époque. Mais, mais au Japon, c'est très dur pour un étranger, même avec un compte, même avec un visa travail ingénieur, ce que tu veux, d'avoir une carte bleue au Japon.
Ah ouais.
Ouais, ça se fait pas trop.
C'est dingue ça.
Alors pour en terminer avec cette digression et revenir un petit peu à l'arcade.
Non, mais je suis sûr que ça intéresse les gens. Parce
non, mais c'est vachement intéressant de connaître un peu les modes de consommation, les modes de vie, puis les modes tout court.
Et ça explique des trucs liés à l'utilisation des jeux vidéo. Par exemple, le fait que les gens aient pas internet chez eux, ça peut expliquer pourquoi le PlayStation Network ou le Xbox Live, les gens jouent pas forcément via ces systèmes-là.
Toute l'évolution du marché japonais dans le jeu vidéo peut être expliquée par la culture et par les habitudes de consommation du pays.
Et puis c'est un peuple insulaire, il faut bien le rappeler. Je pense qu'on va d'ailleurs en parler un petit peu tout à l'heure quand on s'intéressera plus au déclin, on va dire, du jeu vidéo traditionnel, sur console traditionnelle en tout cas. Petit retour juste sur l'arcade, il y a eu un gros retour du jeu de baston à un moment.
Avec Street Fighter 4.
Où ça en est? C'est plus vraiment à la mode les jeux de baston.
J'ai pas de nombre, mais c'est des tendances que tu vois comme moi.
Quand tu rentres dans une salle d'arcade.
Toutes les semaines, quand je vais faire un petit tour à la salle d'arcade, il y a plus grand monde sur les bornes. Je pense que ça s'est forcément affaissé avec Street 4, etc. Bon, c'est fini. Est-ce que ça va repartir avec Street 5 et avec la nouvelle vague, les Tekken, etc., les Dead or Alive, etc. En fait, je sais pas. Je pense que ça dépendra énormément du succès de Street 5 sur console.
Moi, je le trouve un petit peu trop proche. Enfin, Street 4 avait marqué un retour à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire le retour d'une grosse licence et puis de la nouveauté, quoi. Il y avait quelque chose de frappant dans les images qu'on
découvrait. Street 5, c'est pas une surprise quand il est annoncé, c'est sûr.
Voilà. Street 5, il ressemble à Street 4, quoi. Ouais, je sais pas s'il peut redonner un élan, quoi.
Et c'est vrai que Tekken, le prochain, a pas l'air ultra différent de ce que Tekken a proposé jusqu'à
Tekken
présent.
A toujours bien marché dans les salles d'arcade japonaises.
Mais après, t'as Pokken aussi. Si Pokémon Tournament, c'est une sorte de mélange entre Pokémon et Tekken qui pourrait peut-être lui marcher très fort en arcade, on sait pas. Après, je sais que Dragon Ball Z aussi, il y a un jeu d'arcade en ce moment de baston.
Mais il y a toutes les grosses licences ont leur jeu d'arcade, que ce soit.
Et alors toi, tu travailles donc pour Gameloft Japon,
Gameloft
qui est une affiliée à Ubisoft, hein, chez nous.
Non, ça fait longtemps que c'est plus le cas.
C'est plus le cas du tout.
Ils sont toujours frères, hein, les deux présidents, mais c'est deux boîtes totalement séparées, avec des cours de bourse séparés.
Elles sont séparées.
C'est deux entreprises complètement différentes.
Quand je disais affiliés, effectivement, je pensais aux créations des frères Guillemot.
En fait, les Guillemot sont toujours frères,
jusqu'à preuve du contraire.
mais de ce que j'en sais moi et de ce que j'en vois,
d'accord.
Il fut un temps où on faisait pas mal de licences mobiles des jeux Ubisoft, mais en fait, ça remonte déjà à pas mal d'années. Aujourd'hui, tous les jeux Gameloft sont 100% Gameloft.
J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois, et je pense que c'est à ça où ça se limite, je crois que l'un est dans le conseil d'administration de la boîte de l'autre.
C'est ça. Il y a toujours un lien.
Alors
en fait,
c'est pas ça. Alors de mémoire, j'avais lu ça sur internet. Enfin, je connais pas spécialement Maître Guillemot. Mais surtout, les quatre frères, ils se font des réunions de temps en temps. Et en fait, ils sont tous les quatre intéressés à l'entreprise
de son frère. Tout simplement.
Exactement. Voilà, exactement. Mais je crois que ça va pas plus loin que ça. Ubisoft Gameloft.
Tout ça pour dire que Gameloft, c'est pas la seule entreprise étrangère à s'être intégrée sur le marché japonais et à avoir pris le pli justement du jeu mobile. On peut citer Electronic Arts aussi, qui est pas
Electronic Arts, qui ont un studio de développement au Japon qui développe du mobile. Ils avaient fait un
avec des jeux spécifiques pour ce marché encore. Et
typiquement le jeu qu'ils ont sorti, c'était en gros c'était, je sais plus comment il s'appelait exactement, c'était Tetris, Monster Tetris ou quelque chose comme ça. Globalement, c'était Puzzle and Dragon mais avec du Tetris en dessous,
avec la licence Tetris.
Voilà, exactement. Et je sais pas trop comment ça a fonctionné. Et puis là, ils sont en train de bosser sur un autre jeu.
Idle Tetris maintenant. Ouais. Ils essayent autre chose.
Mais en fait, la preuve que tous les gros développeurs mobiles occidentaux qui mettent en place des studios de développement au Japon, c'est la preuve que c'est un Eldorado, c'est le premier marché aujourd'hui mobile. On peut juste pas l'ignorer.
Et on peut pas ignorer Supercell, évidemment, Clash Supercell. Of Clans, qui est l'un des jeux occidentaux qui marche le mieux au Japon.
C'est, ça fonctionne partout dans le monde, mais au Japon, bien pareil, sûr. C'est dans le top 10. Et je me rappelle, c'était à pas très longtemps, il y a maximum 2-3 mois, il s'était payé. Donc il y a Yamanote qui est, pour ceux qui connaissent pas, la
ligne circulaire
la
autour
ligne
de Tokyo,
qui fait globalement tous les musts de Tokyo.
Shibuya, etc. Voilà. Ah.
Shibuya, mon amour. qui se sont vraiment payés la Yamanote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pub de tous les trains, de tous les quais qui n'étaient pas Supercell. J'ai trouvé ça oppressant.
De quoi,
monsieur.
Tout en même temps.
Ils ont tout acheté.
Alors oui, pour vous rendre compte, c'est des kilomètres, ça fait le tour de Tokyo. Hein. C'est gigantesque.
C'est en gros,
la ligne Yamanote, ouais. c'est des trains donc en extérieur. Hein, c'est pas un métro.
Il y a vachement plus de pubs.
Et il y a énormément de pubs à l'intérieur des wagons avec des télévisions, des pubs qui tombent du plafond un peu comme on a dans le métro parisien. Il y a même parfois des pubs à l'intérieur des tunnels.
Et il y a même les pubs sur les trains directement.
Et sur les trains et évidemment dans les stations. Et alors, Clash of Clans avait pris l'intégralité de la Yamanote.
Oui, ouais, ouais.
L'intégralité.
Oui. Et puis même plus que ça, genre quand je descendais à mon arrêt à Shibuya, ils se sont achetés le Kurosata, ils se sont achetés le crossing de Shibuya.
Alors le crossing de Shibuya, c'est cette image que vous voyez dans
absolument
partout, tous
les documentaires
du Japon. Les reportages documentaires sur le Japon, c'est ce fameux carrefour avec des passages piétons sur les quatre rues et en travers avec des tas de personnes qui traversent tout en même temps, des milliers de personnes, des images impressionnantes, quartier très jeune, c'est là aussi où on voit tous les jeunes un peu sapés bizarrement. D'ailleurs, tu n'as pas pris le pli, ça y est, t'es un vieux. Toi,
alors je l'ai pris un moment, ouais. Je me suis un petit
la dernière fois que je t'ai vu, tu étais un peu plus fun au niveau de la SAP.
Ouais.
donc, en gros, c'est juste énormissime.
Mais
c'est complètement
à ma connaissance.
D'avoir pris toutes les pubs de Carrefour.
Il y a peut-être
genre
Coca-Cola qui pouvait le faire, quoi, jusqu'à pas longtemps. Et le fait qu'ils font ça, pareil, King, il y a encore pas très longtemps pour Candy Crush, quand j'étais arrivé, donc il y a 2 ans, pareil, le même genre de truc, ils avaient acheté tout Shibuya, quoi. Mais c'est.
Est-ce qu'on voit encore des jeux traditionnels, je sais pas, Final Fantasy? Fantasy
non.
13,
alors, ça, pareil,
Final Fantasy 14.
C'est génial que tu abordes le point. Il y a énormément de pubs à la télé de jeux.
De jeux tradis.
Non, de jeux mobiles.
De jeux mobiles.
En fait, globalement, au Japon, il y a 3 types de pubs. La bière, la voiture et les jeux vidéo. Tu regardes la télé à n'importe quelle heure, n'importe quelle chaîne, globalement, c'est l'un de ces 3 thèmes qui va revenir tout le temps. Et sur les jeux mobiles, tu n'as pas aujourd'hui... Et c'est vachement utilisé pour le marketing, etc. La télé revient vachement au cœur de l'expérience D'accord. mobile. T'as tous les gros jeux mobiles qui ont des pubs, et c'est des pubs, il y en a tout le temps. Il y en a toutes les 2 minutes, il y a une
Mais
pub
alors,
de jeux vidéo mobile.
Les jeux traditionnels sur PlayStation,
non.
etc., ils ont disparu
La dernière que j'ai dû voir de pub traditionnelle, ça devait être pour la sortie de la PSP... La Vita 2000. La Vita 2000, ils avaient fait un spot Sony.
D'accord.
De ce que je me souviens qui m'a marqué, c'est le dernier, on va dire la dernière pub avec le rapport aux jeux vidéo traditionnels que j'ai vu. Et Nintendo qui continue à faire beaucoup de pubs dans les trains pour leurs jeux. Mais encore D'accord. une fois, Nintendo, c'est à part.
Nintendo, c'est toujours un cas à part. Hein,
Nintendo,
quand on l'aborde.
Au Japon. Mais surtout au Japon, c'est plus que du jeu vidéo en fait, c'est de la culture.
Ce qui est marrant, c'est que pourtant, quand tu regardes les chiffres de vente des Amiibo, c'est au Japon, c'est presque un des territoires où ça marche le moins bien.
Ouais,
quoi.
Et d'ailleurs, conseil à tous les fans d'Amiibo qui en ont marre de
racheter
200
euros,
achetez sur Amazon JP, faites-vous livrer ici, vous les paierez 20 euros au lieu de 200.
Ah, tu paieras juste un peu plus de frais.
Parce que les fameux modèles rares sont disponibles sur les étals au Japon.
Mais tout le monde s'en fout en fait.
Mais c'est un bide vraiment ? Les Amiibo
si je ne m'abuse, dans la dernière fois que Iwata en a parlé, il expliquait que les ventes d'Amiibo Japon représentaient 11%
du total.
Des ventes mondiales. Ouais.
C'est-à-dire rien, quoi. Je pense que là, j'extrapole vraiment. Je sais pas pourquoi je travaille pas chez Nintendo, mais je pense que les Japonais sont habitués à avoir des jouets très sophistiqués et quand tu regardes
articulés, qui se transforment,
ouais,
qui font
et puis
du
même
bruit,
en fait
liés
avec des jeux vidéo, etc., avec des puces, et ça, c'est quelque chose qui est assez courant en fait là-bas.
Ouais.
Et je pense qu'on ne voit pas trop la nouveauté, plus au fait que finalement les Amiibo, ça s'adresse aux enfants, mais ça s'adresse surtout un petit peu aux trentenaires.
Et les jeux d'arcade dont tu parlais tout à l'heure avec les cartes NFC, etc., il y a des applications téléphone avec ces cartes-là
Non, pas non. À ma connaissance.
C'est vraiment limité à l'arcade.
Pas ma connaissance.
Non, parce que Nintendo pourrait revenir en... si c'était pour le marché japonais.
Ah, mais
revenir
la NX,
en arcade.
La NX, c'est évident. Ah, en arcade, il y a Mario Kart.
Il y a le fameux Mario Kart.
C'est Namco d'ailleurs qui développe. Ouais, parfaitement. Qui développe
mais
Mario Kart
ils pourraient utiliser leurs Amiibo aussi, parce que c'est quelque chose qui marche très bien en arcade.
Totalement, mais... je pense que c'est envisageable. Mais pour le cas des Amiibo particuliers, je pense que ce qui fait le gros des ventes, c'est surtout en fait, vous, en fait. Les personnes comme vous qui ont 30-40 ans et qui collectionnent ça parce que nostalgie, parce
amour
que
de jeunesse.
Amour de jeunesse pour ce que tu veux. Et tandis que les jouets, ça reste 100% pour les enfants au Japon, et Nintendo reste pour laisser le domaine des enfants au Japon.
Et les otaku aussi.
Bah justement pas trop. Un otaku en France, c'est quelqu'un qui va justement aimer Nintendo, les Naruto, Dragon Ball, etc. Pas du tout au Japon, c'est quelque chose.
Alors déjà c'est un terme péjoratif au Japon, il faut
et
le savoir.
C'est très péjoratif.
Le mec qui a les peluches de poupe, les
si
poupées.
Si t'es otaku, tu le dis
ça.
Pas. Quoi.
Exactement, c'est quelque chose qui est très mal accepté socialement. Ouais. Et c'est quelque chose. Quand t'es otaku, globalement, c'est parce que tu vas aimer les choses de niche, donc les nanas avec des gros seins et puis les robots.
Voilà.
Quoi, gros
ça, on otaku. Alors que chez nous,
les robots et les gros seins.
Les amiibo, c'est pas un truc d'otaku, quoi. C'est un truc pour les enfants.
Ouais.
Voilà. Tandis que ça va être vraiment très axé geek en Occident, je pense.
Ok.
Voilà.
Très bien. Bah là, on a fait un joli petit tour. Maintenant, il y a quand même un aspect qu'il faudrait qu'on aborde, parce qu'on parlait du déclin du jeu vidéo japonais.
Yes.
Qui n'en est pas un.
Qui n'en est pas forcément un, mais on va dire un déclin du jeu traditionnel, des consoles.
Ça, oui, clairement.
De jeu. Parce qu'il y a eu finalement une transition mobile assez violente, assez rapide, qui a eu des causes et des conséquences. Donc, du coup, sur la façon dont les Japonais consomment leurs jeux.
Ouais.
Et aujourd'hui, tu as l'impression que finalement le jeu traditionnel, comme ça, sur console, est en perdition. Tu vois que c'est quelque chose qui va continuer à s'accentuer.
Alors, je pense que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais je pense, même si moi j'ai une PS4, donc je me suis conseillé de ça, je pense qu'il est tout simplement mort ce marché.
Pour le Japon, pour le...
Ouais, bien sûr. La Xbox One, c'est pas qu'elle est morte, c'est qu'elle est jamais née. Elle n'existe pas.
Alors, comment se sont déroulés les lancements de la PS4 et de la Xbox One
la
au Japon?
La PS4 a fait un bide monumental à sa sortie, quoi.
Enfin, la PS4.
Mais oui, tu voyais les magasins où les gars avaient préparé les files pour faire l'attente la nuit, etc. T'avais trois pauvres péons qui s'étaient ramenés à 10h du mat avec leur ticket de précommande, quoi.
Ils sont pas mal merdés sur les premiers jours. Mais je crois que si on ramène ça à quelques semaines,
mais attends,
c'est équivalent.
Compare à la PS2 et aux émeutes que ça avait provoqué à l'époque partout dans le monde. Quoi. Mm. Le lancement de la PS4 au Japon, ça s'est redressé depuis parce qu'il y a des jeux, etc. Mais ça a été un bide monstrueux. Et la Xbox One, n'en parlons pas, elle n'existe pas. Voilà.
Ouais. Au Japon, la PS4, ils en sont à peu près. Ils ont passé les 1 400 000 il n'y a pas très longtemps.
Ouais.
Et, quand tu vois les courbes de vente, ça stasse.
C'est
10%. Pas mal,
voilà,
pas,
en gros, c'est
pas
ça.
Foufou,
on est à combien?
Mais faire 1 million dans la condition dans laquelle est justement le marché japonais, pour toutes les raisons qu'on vient de décrire, là, le jeu mobile, les habitudes qui changent, etc., c'était pas si mal de faire 1 million assez
parce
rapidement.
Parce que tu auras toujours des core gamers.
Voilà.
C'est là où tu vois la puissance malgré tout de la marque.
On atteint la maturité, je pense, de ce marché. Il n'y en aura plus. Enfin, il y a le nom qu'il y a aujourd'hui. Il n'y en aura plus de nouveau.
Alors après, il y a aussi le marché international qui est quand même beaucoup plus important. On disait tout à l'heure que le Japon avait été réduit il y a quelques années déjà à plus que 10%. Et puis, il y a eu quand même un petit coup de mou, on va dire, du côté des développeurs japonais.
Ah, forcément,
alors que c'était pas encore forcément mort, même au Japon, sur la créativité, et puis surtout sur la technique un petit peu. Ils se sont sentis un petit peu à la ramasse sur la génération précédente, la génération PS3 et 360. On se souvient de Keiji Inafune qui avait déclaré en 2009 au TGS que le Japon était isolé dans le monde du jeu vidéo et que si rien ne changeait, on était foutus, c'était la mort du jeu vidéo. Il avait raison finalement.
Il a parfaitement raison pour le jeu vidéo traditionnel, et la preuve en est, lui aussi il est mort, quoi.
Bah, lui il a quitté Capcom on sait, et il a fondé sa propre société en indépendant.
Bah, il a fait son Mighty No. 9 sur Kickstarter qui est sur le point de sortir. Mais je pense que si le jeu a réussi à être financé et bien financé, c'est en partie grâce au public occidental,
et puis même, enfin,
nostalgique de Megaman.
C'est un jeu qui a vendu à combien, 200, 300 000 exemplaires. Si Mais au grand maximum.
Moi,
je
pense même que t'es enthousiaste.
Alors que c'est un mec qui vendait des millions il y a quelques années, quoi. Donc c'est la preuve que c'est mort.
Il disait aussi, tout le monde au Japon donc fait des jeux affreux. Le Japon a au moins 5 ans de retard, sous-entendu sur l'Occident. C'est vrai que pendant toute cette période où les Occidentaux ont commencé à produire des jeux extrêmement sophistiqués. Tu parlais de Gears of War tout à l'heure. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu l'arrivée des mondes ouverts en masse dans à peu près tous les genres de jeux.
Le jeu en ligne, l'essor du FPS.
Voilà, au moment où les Japonais continuaient à sortir un petit peu la même sauce avec techniquement du retard et puis des temps de développement extrêmement longs. Y compris chez les plus gros, chez Square Enix.
Il y a deux raisons à ça.
C'est dû à quoi ?
Il y a deux raisons principales. La première est parfaitement structurelle. C'est qu'aujourd'hui, avoir un studio de quelques dizaines de personnes à Tokyo, ça coûte une thune incroyable. Mm-hmm. Ça coûte très cher et tu peux juste pas lutter quand tu vois...
Une dizaine de personnes, c'est rien du tout.
Non, quelques dizaines, on va dire, on va dire 60, 70 personnes. Quoi.
D'accord.
Mais c'est déjà énorme. En fait, c'est déjà ça, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, ça, c'était un gros studio.
Ouais. On rappelle qu'un jeu comme Assassin's Creed, au pic de son développement, peut mobiliser jusqu'à 400 personnes.
Tu regardes les crédits du dernier Assassin, tu restes 20 minutes devant ta console à la fin. Quoi, tu
Donc, ça, c'est impossible au Japon, mais pour quelle raison ? Financière,
parce que, y a, un, il n'y a pas la place, et deux, ce n'est pas possible avec le niveau des salaires d'avoir, d'avoir des boîtes qui payent. Enfin, si, t'as Square Enix et t'as Nintendo qui peuvent le faire, grand max. Quoi.
En termes de développement, t'avais aussi un petit temps de retard sur l'utilisation des middleware.
Exactement.
On parle des fameux moteurs.
C'est la deuxième raison, c'est que les
Unreal
Japonais
Engine, etc.
ont refusé. Et ça, je pense que c'est soit par manque de connaissances, donc par bêtise, soit par volonté, et auquel cas, je dirais peut-être.
C'est pas forcément des logiciels traduits en japonais aussi. Les Japonais avaient l'habitude de construire de A à Z leur jeu et les moteurs qui les faisaient tourner.
Mais je pense qu'aujourd'hui, même les Japonais qui sont pas forcément des yeux en anglais, mais dans les métiers techniques de l'informatique, la programmation, etc., tout le monde utilise des outils anglais, même au Japon. Mmh. Donc je pense que c'est soit par bêtise n'est pas le mot, on va dire, mais par manque de connaissances qu'ils n'ont pas fait, soit par choix, parce que peut-être aussi par en anglais pride, si j'ai mis le
conjoint, l'orgueil,
orgueil peut-être. Honnêtement, là vraiment,
mais ils se sont aussi un petit peu entêtés à rester sur des formules très japonaises. Et d'ailleurs, il y avait Yoichi Wada qui à l'époque était Square Enix, qui aujourd'hui est au CESA, donc et qui disait que c'était un environnement fermé, presque xénophobe. Bon, alors le mot est très très fort, et que le différentiel avec les États-Unis et puis on peut inclure l'Europe aussi, qui produisent des jeux pour le monde entier. Ouais. C'est-à-dire pour s'adapter au goût du monde entier, les développeurs japonais se sont pas mal. Et alors là, il y a évidemment des exceptions. Hein. Square Enix, Capcom, qui a été même les premiers à aller chercher des studios à l'étranger, etc., s'entêter un petit peu à créer des jeux pour les goûts des japonais, trop centré sur les goûts des japonais.
Alors,
et en même temps, le problème, est-ce qu'il n'est pas là ? Est-ce que c'est pas juste que voilà, quand t'es japonais,
t'as
envie de faire des jeux qui te plaisent ?
Exactement.
Aussi.
C'est pas pour moi, ça c'est pas un problème. Pour juste revenir sur l'autre, l'histoire du middleware, les engines, ils ont pas compris il y a 10 ans qu'il fallait switcher sur Unreal, qu'il fallait switcher sur le Cry, qu'il fallait il y a des sur Unity. Bon, ils ont compris le coup avec Unity maintenant. Mais
vous développez sur Unity ?
Non, on développe sur un moteur interne, c'est un moteur qui a été développé en Occident.
D'accord.
Bref, donc ils n'ont pas compris ça, ils ont commencé à choper le coup, donc je pense que là-dessus ça va aller mieux. C'est de l'argent perdu de réinventer la roue, il n'y a pas besoin aujourd'hui. Donc ça, ils ont compris. Et donc, par rapport, excuse-moi, à ce que tu viens d'évoquer, c'était
les goûts, tout simplement.
Oui, voilà.
Japonais.
Que ce soit dans le jeu vidéo, mais c'est aussi le cas parfaitement, je pense, dans la musique, dans le manga, dans le cinéma. Quand les Japonais créent quelque chose, ils pensent dans leur intellect, ça va même pas jusqu'au fait qu'on peut l'exporter. C'est créé pour le Japon parce que c'est le marché, c'est pas le marché qu'ils visent, c'est le seul marché qu'ils connaissent et qu'ils appréhendent pas trop le reste.
Et on parle beaucoup dans les causes de ce déclin créatif, etc., du côté insulaire du Japon, c'est-à-dire replier un petit peu sur lui-même et surtout fondamentalement ancrer en eux une culture et des goûts et des envies, des aspirations différentes.
Je pense vraiment que même s'il est sorti il n'y a pas très longtemps et en catimini par Puzzle & Dragon en Europe, c'est pas possible que ça marche, parce que c'est le... Essayez-le, hein, chers auditeurs, essayez-le. Au bout de 10 minutes, vous allez très certainement arrêter et vous faire chier, parce que c'est pas intéressant, c'est du grind de débile en fait. C'est comme
du grind, donc du fait de faire grimper son personnage.
Exactement.
En
il y a
refaire les mêmes choses
en refaisant tout le temps les mêmes choses.
Et ça, c'est quelque chose. Ça parle grave aux Japonais. Ça parle pas au reste. Et c'est 100% culturel. Mm-hmm. Malheureusement.
Et tu vois, maintenant il y a des jeux comme Bloodborne, je pense que c'était des jeux typiquement japonais à une époque, et maintenant qui sont créés pour s'adresser à une niche de joueurs occidentaux nostalgiques de la grande époque japonais. Quoi.
Exactement,
c'est ça, on est en plein dans des. Il y a des paradoxes de partout depuis qu'on commence à parler dans ce podcast. C'est vrai que voilà, ces jeux, ces licences qui étaient portées dans un sens qui sont maintenant portées dans l'autre, les goûts des occidentaux pour
le. Qui maintenant, c'est japonais. Platinum Games, pareil, c'est le parfait exemple.
Typiquement, ils font des jeux finalement pour les occidentaux.
C'était
des jeux typiquement japonais pour les occidentaux.
C'était des jeux à une époque, t'étais même pas sûr qu'ils sortent chez nous.
Voilà.
On n'y avait pas le droit, et ça faisait rêver les fans du Japon, les mecs qui jouaient en import, etc. Et maintenant, comme les jeux sur console se vendent plus spécialement bien au Japon, bah ils les font quand même, mais pour les occidentaux fans du Japon. Enfin, voilà, c'est une sorte de boucle.
Je trouve ça génial personnellement, mais ouais.
Mais alors, malgré ce constat, on va dire sur la génération précédente, est-ce que cette page là technologique, créative et surtout ouverte sur le monde entier, et enfin refermée par rapport au monde entier à l'époque, est-ce que c'est pas derrière les Japonais maintenant, ça. Est-ce qu'on est
alors,
ou est-ce que le mobile de toute façon a cassé tous les games et de toute façon.
Ah mais ça c'est évident. La question se pose même pas.
Et là on voit quand même des exemples. On voit que Square Enix, on voit Konami avec Metal Gear Solid et donc Kojima Productions qui a créé le Fox Engine. Tu vois, dans cette optique d'avoir un moteur interne qui carbure, qui est capable de faire des mondes ouverts super beaux, etc. Il y a quand même pas mal d'exemples et qui font que là on peut penser que le jeu vidéo japonais, tout du moins chez ces gros éditeurs, chez Square Enix, chez Konami, Nintendo étant toujours un cas à part, puisse revenir sur l'échiquier international.
Alors, je pense honnêtement que la génération PS4, bon, Xbox One, je pense que par la force des choses, les jeux vont sortir sur Xbox One, mais c'est pour uniquement le public occidental.
Là, on voit Star Ocean, là, par exemple, qui a été annoncé chez Square Enix, c'est uniquement PS3.
Et d'ailleurs, ça, on peut revenir encore dessus sur le passage de génération qui s'est beaucoup moins bien passé. Encore aujourd'hui, c'est entre la PS3 et la PS4 au Japon qu'en Occident. Mais pour les jeux, je pense que les jeux japonais, les gros AAA japonais qu'on va avoir sur cette génération vont être d'excellente qualité, mais je pense qu'ils seront beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nombreux. Je pense qu'on aura le MGS5, le FF14,
anciennement Versus 13.
Le Kingdom Hearts, tu vas avoir 2-3 versions du Street Fighter 5. Et pour ce qui est du jeu à très gros budget qui fait, on va dire, l'image du jeu japonais qu'on a d'Occident, je crois que c'est à peu près tout.
Encore une fois des jeux japonais gros budget mais créés maintenant pour le public occidental.
Ils sont taillés pour l'Occident, c'est évident.
Parce que tu regardes et
c'est quand t'es un gros, parce que finalement quand t'es un éditeur, on va dire de moyen au Japon,
tu fais que du mobile.
Tu fais que du mobile pour le japonais.
Exactement.
Pour le public
et
japonais.
Et d'ailleurs, ça n'empêche pas les gros.
Donc l'aspect insulaire va rester finalement.
Ouais, totalement.
Les exceptions aujourd'hui vont être Square Enix et Konami.
Regarde, totalement d'accord. Le fait que les jeux continuent de sortir sur PS3. C'est un signe. Ouais. Et j'ai regardé avant de commencer le podcast, j'ai jeté un coup d'œil au dernier classement Media Create qui fait le listing des ventes de jeux au Japon.
Ouais.
Yakuza 0
fait
Yakuza
sur PS4 et sur PS3.
Yakuza 0 qui était une très grosse licence, une des dernières très grosses licences de Sega sur console. Tu regardes la seule version qui est listée cette semaine au Japon, c'est la version PS3.
Ouais.
Ce qui est assez ouf. Et en plus, non seulement elle est basse dans le classement, mais en plus, elle est la seule. Quoi. La version PS4, elle n'existe pas. Et forcément, les jeux, ça les tire vers le bas en termes techniques. Parce que forcément, si tu es obligé de créer une version PS3, la version PS4, elle n'ira pas aussi haut en termes de réalisation qu'elle pourrait le faire si c'était juste du next-gen.
Alors, d'ailleurs,
et c'est parfaitement explicable tout ça.
Alors, vas-y.
Alors,
les gens n'ont pas acheté la PS4 et continuent de jouer sur PS3.
Je pense que les Japonais ont de l'argent. Donc le problème c'est pas de lâcher les 400 euros pour acheter une PS4, c'est pas ça le problème, c'est qu'ils n'en voient pas l'utilité. Parce qu'aujourd'hui la PS3 a été vachement adoptée pour son lecteur Blu-ray. Au Japon il n'y a pas de VOD, on va encore louer à l'équivalent des vidéos clubs,
étant donné que t'as pas beaucoup de connexion à la maison,
exactement, tout se rejoint, mais c'est tout le cercle de l'infini, mec,
incroyable. On a appris tellement de choses aujourd'hui.
Attends, mais il y a encore plein de vidéos clubs partout dans Tokyo.
En plus acheter un Blu-ray ou un DVD ça coûte
toi.
Super cher.
Exactement,
au Japon
on loue, en fait
on loue beaucoup Tsutaya,
exactement, j'ai ma carte de fidélité sur moi là, tu vois,
je l'avais aussi, je me suis maté tous les Ghibli là-bas comme ça. Avec les
Et bref, il y a beaucoup de gens qui vont acheter la PS3 pour ça. Aujourd'hui, ils ont une PS3 dans leur salon. Et globalement, tous les plus grands jeux qui sortent aujourd'hui sur PS3 comme sur PS4, enfin justement les plus gros jeux PS4 sont encore pour les jeux japonais encore sur PS3, et si jamais t'as un écran de la mort machin et que tu veux jouer dans d'excellentes conditions, ok, tu joueras mieux sur PS4. Mais pour les japonais qui ont des petits apparts, qui vont avoir des télés de 60-70 cm, finalement en fait ils voient pas trop l'intérêt aujourd'hui d'acheter une PS4, parce que tout ce qu'ils font sur PS4 ils peuvent le faire sur PS3. Et c'est pour ça que Star Ocean, qui va sortir dans, je sais pas, dans 2-3 ans, quoi, quelque chose comme ça, j'imagine.
Un peu moins, quand même.
Je sais pas quand le cycle de développement a commencé, mais je l'imagine mal venir en 2015, ce sera 2016 en tous les cas, je pense. Mm-hmm. Ils sont encore sur PS3, alors que la PS4 sera sortie depuis genre 3 ans, quoi. C'est quelque chose.
2 ans, ouais.
Et là, on revient sur le portable, enfin, je reviens sur le portable, ouais. Mais ça me fait penser au cas du jeu Project Cross Zone. Qui est ouais. un crossover Sega, Capcom, Namco, mm-hmm. qui est à la base un jeu qui était sorti qu'au Japon sur 3DS. Et finalement, Bandai Namco a dit, bon, on va tenter, on va le localiser juste en anglais, on va le sortir en Occident. Et là où au Japon, où il ne s'était pas vendu des masses, en Occident, ils en ont fait 400 000. Mais ce qui est un chiffre étonnant. Hallucinant pour un jeu comme ça, ouais. et qui a même fait halluciner Namco dans Bandai. Ce qui fait qu'ils ont mis en chantier une suite. Ouais. Et cette suite, elle a été annoncée d'emblée, localisé dans différentes langues et à l'international, alors que ça prouve bien une fois encore que maintenant les studios japonais, ils font des jeux japonais mais console, mais pour le public occidental. C'est assez amusant. Non,
encore une fois, par rapport au marché, etc., il y a quand même une exception toujours, on aura de cesse de le répéter, c'est Nintendo. Ouais. Parce que effectivement, le marché des consoles de salon est une chose, le marché des consoles portables, et là on parle de la 3DS et de la Vita, certes, la Vita ayant connu un destin un peu moins...
à ton âme, je t'ai aimé, je t'ai adoré console.
Bah, pourtant, au Japon, ça aurait pu. Il y avait un petit élan au départ, mais voilà, ils n'ont pas réussi à refaire ce qu'avait fait la PSP à l'époque grâce à Monster Hunter.
Elle était tellement parfaite, la Vita, mec.
C'était
drivé. Première fois que j'ai eu dans les mains, c'était le jeu vidéo, c'est ça.
Mais il lui manquait une kilo.
Mais il a duré 6 mois.
Il en manquait plusieurs.
Mais alors, pour illustrer ça, parce que quand même, la 3DS a non seulement sauvé, pas sauvé Nintendo, parce qu'elle n'avait pas besoin de ça, mais sauvé, on va dire, les résultats annuels de Nintendo depuis la Wii U est sortie. Prenons le top 10 des jeux en 2014.
Ouais,
au Japon, je vous le fais, c'est simple. 3 millions, un jeu dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais on va beaucoup en parler.
Ça va péter dans les prochains mois.
Avant de terminer, ouais. C'est Yo-kai Watch 2, donc la série Yo-kai Watch de Level 5, qui est l'un des éditeurs en forme aussi, on ne l'a pas encore cité, on va revenir dessus. Numéro 2, Pokémon Omega Ruby et Alpha, 2,5 millions quand même. Hein,
valeur sûre Pokémon.
Encore une fois.
Mais dépassé par Yo-kai Watch, tu vois.
Dépassé par Yo-kai Watch, tout à fait. Encore une fois, 3DS évidemment. Monster Hunter 4G sur 3DS, numéro 3, avec 2 300 000, un petit peu moins. Yo-kai Watch 2, l'autre, celui-là, c'était Shinnuchi. Je ne sais pas si...
C'est comme Pokémon avec version bleue.
Non, parce que les deux versions étaient mélangées pour le premier. Yo-kai Watch, c'était Ganso et Honkai. Là, c'est encore une autre version qui est sortie aussi en 2014 sur 3DS. Quatrième du classement avec 2 millions, encore une fois. Alors, on est toujours au-dessus des 2 millions. Toujours au-dessus des 2 millions aussi avec la cinquième place... Smash Bros.
Qui est le Smash Bros le mieux vendu de l'histoire au Japon.
Alors Smash Bros, on parle évidemment de la version 3DS.
Justement parce que la 3DS.
Parce que 3DS, alors voilà. Évidemment, on comprend mieux.
Il n'y avait jamais eu de version portable de Smash Bros. À Londres.
Et je pense que la version console a été taillée pour l'Occident et la version 3DS a été taillée pour le Japon.
Voilà. Tout à fait. Yo-kai Watch, encore une fois, le premier. Non, mais c'est hallucinant.
Et le fait que le premier soit encore dans le top, bien longtemps après
numéro
sa sortie.
Numéro 6, un an après sa sortie, je pense. Hein. Un million ouf, quand même en 2014. Ouais. Et c'est pas fini. Mario Kart 8, premier jeu sur console portable. C'est un jeu Nintendo. C'est un jeu Wii U, voilà, Mario Kart 8.
Non, t'avais Smash Bros juste avant.
Oui, non, mais sur 3DS.
Oui, c'est ce que t'as dit. Ah, Mario Kart 8, c'est... Ah non, c'est Wii U, Mario Kart 8.
Mario Kart 8, c'est Wii U.
Oui, non, ce que t'as dit 3DS, c'est pour ça.
Ah, premier jeu Wii U, pardon, du classement, premier jeu console, c'est-à-dire console
de salon,
avec 844 000. Ensuite, Dragon Quest Monsters 2, 8e. Kirby
3DS,
bien sûr. Kirby Triple Deluxe 3DS également, 9e. Et en 10e position... Smash Bros, la version Wii U.
Voilà.
Avec 479 000 pour comparer avec la version 3DS, c'était donc.
2 millions, pas loin.
C'est cela, oui, c'est ça, 2 millions. Donc, 4 fois plus. 4 fois plus sur 3DS que sur Wii U. Et en gros, on a vu donc un top 10 avec uniquement des jeux portables, à deux exceptions près, qui sont des exceptions de
exactement.
Made in Nintendo.
Et surtout, c'est des jeux Nintendo, tous.
Et Nintendo.
Enfin, il y a du Level 5 aussi.
Il y a du Level 5.
Mais c'est des jeux sur plateforme Nintendo.
Et du Capcom, avec Monster Hunter 4G.
Parfaitement, mais c'est quand même vachement Nintendo dans la tête des gens maintenant.
Donc là, on a une photographie du Japon, mine de rien. Parce que là, sauf que ça exclut
le jeu mobile. Ça, c'est le jeu standard actuel au Japon,
voilà.
Vraiment.
Donc pour comparer, donc plus gros jeu de 2014, The Kaiwatch, 3 millions. Je sais pas, moi, quand on prenait tout à l'heure l'exemple des 15 millions de comptes de
Monster Strike ou des genre 17 millions de Tsum Tsum, oui, bien sûr.
Tsum Tsum, voilà, c'est pas énorme.
Mais il faut garder à l'esprit que le marché du jeu vidéo traditionnel au Japon, c'est-à-dire console plus jeu console, en 2014, il est au niveau le plus bas depuis 20 ans.
Ouais.
Il a fait moins bien qu'en 1990, je crois. 20 ans, c'est ça. Ouais. 24 ans, pardon. Donc,
mais
1990.
Le jeu mobile n'a jamais été aussi haut.
Voilà.
C'est les vases résonnants.
Donc ça confirme une fois encore qu'au Japon, le jeu vidéo est loin d'être mort, mais c'est juste qu'il n'est plus au même endroit.
Il a complètement muté. Totalement. Si ce n'est donc sur les consoles portables de Nintendo, qui font quand même, encore une fois, exception.
Et c'est très bien. Il survit, mais on n'est quand même pas à des niveaux de vente que d'autres cartons ont pu avoir sur console Nintendo par le passé.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, c'est pas au niveau de vente. Et encore, tu regardes les seuls deux jeux console de salon d'une console qui est considérée comme un bide, à savoir la Wii U.
Mm-hmm.
C'est quand même vachement plus que du coup les jeux PS3, PS4.
Mm-hmm.
Donc ça montre que même ce qui est considéré, ce qu'on considère nous d'ici en France comme un bide, en fait est plus puissant que ce qui est considéré comme un super carton ici, à savoir la PS4. Donc ça prouve qu'en fait les marchés sont juste mais diamétralement opposés aujourd'hui. Ouais.
Donc ça c'est le marché japonais au Japon, hein.
Bien
faut
sûr.
Le rappeler parce
bien
que
sûr,
voilà c'est toute la question.
Ce serait très intéressant de faire un top des meilleures ventes de jeux japonais en dehors du Japon.
Mais je pense que par exemple un jeu comme Metal Gear,
exactement,
Solid
Metal Gear
va faire peut-être pas grand chose au Japon et un énorme succès en Occident. Et
bien
ça c'est considéré comme un retour du jeu japonais,
alors que non, en fait,
tel qu'il était avant.
Metal Gear est un jeu occidental.
Mais voilà,
totalement.
Mais ça a jamais été un gros carton au Japon. Metal Gear,
c'est une grosse licence, mais c'est pas des millions de sellers de ouf, quoi.
Alors il y a un sujet qu'on n'a pas abordé encore, c'est le jeu PC, parce que mine de rien, il y a un vrai marché du jeu PC au Japon. Et ce,
n'abusons
toujours.
Rien non plus, mais
non, mais même avant même l'arrivée des consoles de salon, etc. Il y avait déjà masse d'ordinateurs qui étaient sortis, qui avaient du succès via les jeux. Moi, je vais te dire, l'image que j'ai du jeu PC au Japon, pour moi, c'est des jeux de cul, voilà, avec des filles dessinées façon manga avec dessins énormissimes et plus ou moins un peu de jeux en ligne. C'est toujours comme ça.
Alors oui et non. Faut comprendre quelque chose, c'est que la mode de l'animé, jeux porno, Akiba, tout ça, mais ça.
C'est un déclin.
Alors, Akiba est mort. Ça, c'est. Je sais pas si on a le temps de revenir dessus.
Julien avait fait une petite chronique dessus à son retour du Tokyo Game Show, il était même encore là-bas. Akihabara, c'est mort, je crois que c'était le titre si vous voulez chercher sur Gameblog.
Et que ce soit l'industrie de l'animé pour otaku, des figurines, etc. Ça s'est totalement pété la tronche il y a quelques années, il reste quelques irréductibles, mais c'est fini, quoi.
C'est le plus niche que jamais.
Et du coup, forcément, le jeu PC qui était assez dépendant de ça, il y en a encore, bien évidemment, il y en aura toujours un peu, mais ça reste des jeux amateurs ou des jeux semi-pro.
Très petit budget.
Ou de l'indé à très petit budget, Et d'un autre côté, justement parce qu'il y a cet essor-là du jeu indé sur PC en ce moment.
Voilà,
y a
c'est là où je voulais en venir.
Exactement, voilà. Il y a vraiment une grosse scène indé au Japon qui reste japonaise pour le moment, mais qui, je pense, pour avoir parmi les. J'ai fait deux, trois salons indés.
Il y a deux gros rendez-vous en fait au Japon.
Le Beat Summit.
Il y a le Beat Summit qui se situe à Kyoto, si je dis pas de bêtises.
Exact.
Et à Tokyo, un peu plus grand.
Unite Japan.
Donc c'est des endroits où se retrouvent les développeurs indépendants.
Alors,
et effectivement, il y a une vraie scène.
Alors Unite Japan,
c'est assez nouveau.
Unite, enfin Bitsumit, c'est vraiment le jeu indé. Unite, c'est vraiment le salon d'Unity, des jeux d'Unity. Ouais. Donc ça va autant parler aux développeurs de grosses boîtes qui utilisent Unity.
Aujourd'hui, mais Unity, c'est quand même à la base, c'est construit pas mal sur son aspect gratuit et
totalement
accessible.
Mais
du coup,
tu regardes aujourd'hui, t'as Square Enix qui développe sur Unity.
Voilà, ouais, ça a beaucoup changé. Ouais.
Donc ça vraiment, ça parle à tout le monde. Mais ça reste, il reste énormément d'indé et c'est tant mieux hein, sur Unity, c'est très bien, c'est un excellent moteur. Et du coup, voilà, on a un énorme renouveau, je pense, et une énorme fraîcheur qu'on peut avoir dans les jeux indés, que ce soit des projets à une personne ou même à 20, 30 personnes. Il y a plein de studios qui se créent. Il y a un gros engouement du...
Il y a beaucoup de créations de studios, tu dis ?
De petits studios, vraiment de l'indépendant, quoi. Mais il y a beaucoup, beaucoup
mais
de studios.
Mais ils font des jeux moins japonais, du coup ? C'est, je veux dire, moins, typiquement japonais, je veux dire, moins renfermé sur les goûts japonais
ça reste...
uniquement.
Bah, en fait, ça revient un petit peu à ce qu'on aime dans ce qu'on aimait en tout du moins dans le jeu japonais il y a quelques temps, à savoir des gameplay simples, incisifs, mais super originaux.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la scène indépendante.
D'accord.
Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, c'est le marché sur PC et c'est évidemment lié aux indés parce que en général, c'est eux qui vont adopter en premier les nouvelles technologies. Oculus Rift, etc. Ça parle énormément au public japonais.
Ah, la réalité virtuelle. Ouais. Ça leur parle déjà beaucoup c'est...
En tout cas, aux développeurs, énormément, oui.
D'accord.
Voilà. Est-ce que tu penses que ça pourrait, par exemple, aider la PS4 ? Parce qu'on sait qu'il y a le Project Morpheus. S'ils sont intrigués par la réalité virtuelle, un produit convaincant, ça pourrait peut-être inciter les gens à prendre une PS4, non ?
On ne sait pas encore, parce qu'ils ne parlaient pas trop du public, là. Est-ce que le public est prêt pour la réalité virtuelle au Japon ?
Ah, tu parlais juste des développeurs.
Là, ils parlaient des développeurs qui sont tous très excités du côté indé.
Forcément, pour ce qui est de l'indé, Morpheus, bah, c'est pas possible, vu que c'est encore un international.
Non, mais par contre, on sait très bien qu'à la tête de Sony et des studios worldwide, il y a un type qui s'appelle Shuhei Yoshida.
Et qui kiffe les indés.
Et qui est passionné, littéralement. Par tout ce que peuvent toutes les idées que peuvent avoir les indés, et grâce à cet homme là on a quand même énormément de choses qui atterrissent aussi sur console et sur PlayStation 4 ou PS Vita en particulier, donc voilà, pourquoi pas, pourquoi est-ce que c'est
totalement
c'est... je pense que typiquement Yoshida il doit faire des petits tours au Bitsumit
mais c'est évident. Et le truc qui est génial, c'est que justement parce qu'on utilise énormément Unity en ce moment au Japon, Unity, ça va aussi bien fonctionner sur ordinateur que sur tes iPads, que sur
mobile,
ton iPhone,
ouais,
que
sûr.
Sur PS4, et Vita, etc. Et ça, forcément, bah, c'est du pain béni pour Sony,
ça,
etc.
Ça, on va dire, c'est ce que le Japon a en commun avec tout le reste du monde. Hein. C'est voilà, il y a une grosse, un gros changement en termes de développement avec tous ces moteurs qui sont de plus en plus performants, qui facilitent totalement les développements et surtout. Ce qui est impératif aujourd'hui, c'est d'être sur plusieurs plateformes en même
exactement.
Temps.
Exactement. Ouais, ouais.
Donc on a fait un beau tour du jeu vidéo japonais. Tu veux ajouter quelque chose avant qu'on conclue ?
Tellement de choses à ajouter. En fait, on pourrait parler pendant des heures.
Moi, j'ai une question.
Ouais, vas-y.
J'ai une question parce qu'on a vu, le cas d'Akihabara où toutes les boutiques ont été totalement dévalisées par les collectionneurs occidentaux qui viennent et les vendeurs eBay qui rachètent en masse pour foutre sur eBay les jeux japonais.
En gros, tous les petits trésors qui étaient dans les boutiques japonaises.
Est-ce que le rétro gaming, ça se passe comment au Japon ? Est-ce qu'il y a des gens qui jouent encore
encore une fois, je peux me faire des amis en ça, mais je crois que tout le monde s'en fout. Quoi. Je crois que c'est super
occidental. Tu parles du japonais moyen.
Je parle vraiment du japonais. Exactement.
Et évidemment, encore des.
Il y a une niche de passionnés, mais je parle vraiment du grand public en général.
Ça représente pas grand-chose.
Je pense que.
On voit rien.
Ouais.
Parce qu'en fait, je pense qu'on a en France. Il y a beaucoup d'entre nous qui sommes venus aux jeux vidéo grâce au Japon, grâce à la production japonaise. Et en plus, c'est ancré dans une époque. C'est le Club Dorothée, c'est tous les mangas. Donc en fait, on a une image assez idéalisée du Japon et de ce que c'est.
Ouais.
Et je pense qu'en fait, et après, c'est aidé un peu maintenant par les développeurs qui sortent pour nous des jeux japonais.
Bien sûr.
Je pense que tu as une image un peu rêvée du Japon qui n'est plus vraiment celle vécue par les joueurs japonais au quotidien.
Alors, tu as entièrement raison. Le côté rétro gamer en lui-même, c'est-à-dire acheter des vieilles consoles, refaire des vieux jeux, etc., je pense qu'il est inexistant ou presque au Japon. Par contre, ce qu'il y a, c'est que les Japonais capitalisent et les éditeurs, évidemment, tirent sur le filon un petit peu pour gagner de l'argent là-dessus, sur le Natsukashi, donc sur le nostalgique.
Ah, ça marche bien au Japon.
Mais en fait,
ça.
Du coup, on parle pas de rétro gaming, on parle de mettre dans des nouveaux jeux. Des aspects qui font que ça me rappelle quand j'étais gamin, etc. Et c'est pour ça
c'est pas la collection ou les objets
des jeux comme mon dieu, Dragon Quest, voilà, qui est sorti, il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps sur iPhone, il cartonne grave parce que c'est Natsukashi, voilà. C'est assez comme quand je l'avais sur Super NES à l'époque. Mais c'est pas du rétro dans le gaming dans le sens où ce sont des nouveaux jeux. Et c'est pareil pour le Final Fantasy Record Keeper, c'est du fanservice et de la nostalgie à 200%.
Celui-là est sorti chez nous comme beaucoup de jeux Square Enix et il est en test d'ailleurs sur Gameblog et il nous a bien tapé dans l'œil. Record Keeper.
Comment tu dis la nostalgie en japonais?
Natsukashi.
Natsukashi. Et ça me fait penser à au jeu Dragon Ball DS qui était sorti genre 2005-2006, enfin il y a quelques années.
Gros retour de Dragon Ball. Là. C'est jamais mort Dragon Ball, mais là en ce moment il y a une vraie.
Au Japon, j'ai vu, il va écrire un nouveau manga.
Une nouvelle série.
En Occident, je veux dire, il y a qu'à voir. Nous sur Gameblog, à chaque fois qu'on en parle, ça les crise les foules.
Mais tu vois, pour le cas de Dragon Ball DS, là je me souviens bien d'une publicité japonaise qui était où en fait c'était le père de famille qui allait voir sa fille à l'école chanter dans la chorale de l'école et en fait les enfants chantaient le générique de Dragon Ball. Et tu voyais le mec qui avait les larmes aux yeux et qui soupirait, un gros soupir. Et en fait, c'était juste, tu voyais pas du tout le jeu dans la pub. Et à la fin, t'avais le logo qui apparaissait. Et il jouait vraiment sous cette nostalgie, mais pour proposer un produit nouveau.
Ah, mais c'est pas étonnant. Et les pubs de jeux vidéo au Japon, enfin, pour en trouver facilement sur YouTube. Alors, en général, on montre même pas de gameplay, quoi. On montre les gens qui s'amusent très à la Nintendo, quoi. Et puis, avec des spots.
C'est du lifestyle.
Exactement, ouais.
Ben merci les gars, on va conclure rapidement sur ce marché japonais. Donc alors il y a le jeu vidéo japonais, c'est-à-dire
le jeu vidéo japonais est mort, vive le jeu vidéo japonais.
Non, mais il y a les jeux créés au Japon à vocation internationale et puis il y a le marché japonais. Le marché japonais lui il a switché quoi, on va dire c'est définitif.
C'est définitif,
il sera prépondérant, complètement écrasant par rapport au marché des consoles traditionnelles qui ont fait aujourd'hui du marché japonais sur ce secteur un petit finalement.
Et en regardant comme ça en fait le jeu vidéo japonais est en expansion,
mais il est en expansion mais
sur une autre plateforme, sur le mobile.
Exactement. Dans les débuts des années 2000, quand le phénomène a bien pris sur les jeux mobiles, donc quasiment 2010 même, c'était et c'est probablement encore le cas, mais il y a peut-être la Corée qui s'est mise là-dedans, le premier marché du jeu mobile au monde.
Et c'est affolant les chiffres, c'est vraiment, vraiment majoritaire. Et très iPhone, hein, beaucoup plus qu'Android d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, c'est ça qui est assez étonnant, parce que nous, depuis qu'on a commencé l'aventure Gameblog, on a. À partir de 2009, commençait à faire les Tokyo Game Show. Ouais. Donc ça en fait quelques-uns déjà. Le nombre d'iPhone dans le métro, part d'iPhone sur l'ensemble des. Parce que, en gros, dans le métro japonais, tout le monde a la tête dans son téléphone. C'est un peu comme ça chez nous aujourd'hui aussi.
Sauf que si tu
captes pas dans le métro, donc c'est un peu moins d'intérêt. Mais on voyait encore beaucoup de téléphones, on va dire, japonais, traditionnels, ceux qui s'ouvrent clap-clap en deux, etc. Et assez peu d'iPhone. Et puis la part d'iPhone est devenue complètement écrasante.
L'iPhone représente deux smartphones sur trois au Japon.
Voilà. Et on en était très loin, hein, il y a quelques
années. C'est marrant qu'en Corée, alors, par contre, dans le métro, pareil, les gens sur le téléphone, c'est Samsung.
Samsung, LG, tout ça, mec. Évidemment, c'est local aussi. Mais et il y a un taux de renouvellement de téléphone au Japon qui est, on en revient pour les mêmes raisons, parce que les gens passent leur vie dessus, qui est vachement plus élevé qu'ici. Mm-hmm. Quand je suis revenu, honnêtement, j'ai revu des iPhone 3GS et des iPhone 4 dans le métro.
Il y en a toujours.
Ça faisait. Deux ans, trois ans que j'en avais pas vu en fait, depuis que j'étais pas revenu. Tout le monde est sur 5S, 6, point barre. Même le 5 devient un petit peu rare au Japon. Donc, oui.
Deuxième conclusion, donc le en dehors du marché purement japonais, le jeu japonais à l'extérieur, on a quand même des bons motifs d'espoir de pas avoir, on va dire, le même échec que sur la génération précédente. Très clairement.
Je pense que les gros jeux seront de très bons jeux. Il y en aura moins. Voilà. Ils seront très bons. Alors, ça, je pense.
C'est toujours les mêmes, hein, Metal Gear, Final Fantasy, etc. Mais voilà, on
sent. Parce que c'est ce qui reste.
C'est un peu les licences qui restent. Mais bon, il y en a d'autres chez Sony également. Oui. On sait que voilà, Gran Turismo est encore une énorme licence.
Il y a Nintendo aussi.
Et il y a tous l'exception Nintendo. Le Nintendo qui est un genre, un marché à lui tout seul, etc. Et qui va revenir probablement en force. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Pour la prochaine génération qui va arriver très très vite, encore entre deux générations comme la Wii à l'époque. Hein. Et puis voilà. voilà pour la conclusion. Merci en tout cas d'être passé nous voir. On a profité de ton passage à Paris. Tu retournes au Japon bientôt.
Samedi prochain.
Voilà, et puis tu vas travailler sur un nouveau jeu.
Je pense que déjà on va faire les updates, etc.
Ah oui, c'est ça.
Et puis après,
les DLC.
Après, on va rapide.
Ça, c'est pas la phase DLC, c'est un jeu gratuit finalement. C'est des.
Bah si, on parle de DLC. Enfin, d'un autre content, quoi. C'est des choses à télécharger. Donc du moment que c'est à télécharger, c'est du DLC. Ça dépendra de plein de choses. Je vous cache pas que j'ai tellement la tête dans le guidon dans le jeu en lui-même que la suite. Je pense que j'en connais à peu près autant que toi. Donc ouais. C'était rien du tout. Donc déjà sortir ça, faire un. Tout ce qui est la promotion du jeu, les updates, etc. Déjà, ça va bien nous occuper.
Voilà.
Et puis, on verra la suite.
Bah, très bien. Bah, ouais. Bonne continuation dans tout ça, suite à ton retour au Japon. Merci, Romain, également. Jeu vidéo japonais n'est pas mort. Son marché s'est déplacé localement et il reviendra un peu plus en forme que sur la génération précédente. C'est une quasi-certitude.
Dans un peu d'orgueil cas, aussi. Je pense qu'ils ont envie de montrer qu'ils sont capables de faire des choses bien.
Et donc, comme on le disait tout à l'heure, n'oublions pas également les indés. Ils auront leur mot à dire. Et on espère pouvoir en parler en de bons termes très bientôt. Dans tous les cas, nous, on vous donne rendez-vous pour de prochains podcasts sur Gameblog.
Podcast très écouté au Japon, les podcasts Gameblog. Beaucoup d'auditeurs.
On a une belle communauté. Ouais. On s'en est rendu compte. Je me rappelle notre premier Tokyo Game Show ensemble avec Julien en 2009, donc si je dis pas de bêtises, on se balade à Shibuya, ce fameux carrefour extrêmement fréquenté, et on a été appagué deux fois par des petits Français vivant là-bas.
C'est-à-dire plus qu'en France.
Mais c'est exactement
ça. Plus qu'en France. Ouais.
La première fois que je t'avais rencontré avec Julien, c'était au TGS 2000, je sais plus, ça devait être 2007 ou un truc comme ça, quand j'étais lecteur, tout simple, j'étais venu faire un bisou. Quoi.
Et on avait aussi croisé effectivement, ça c'est beaucoup plus courant à la Gamescom, des Français qui font le voyage exprès pour le salon.
Il y en a plein. Malheureusement, enfin, je dis ça rapidement à la fin, désolé de revenir là-dessus. Beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers qui travaillent au Japon dans le jeu vidéo.
Il y a des fans de Gameblog qui se retrouvent, il faut le dire.
Alors,
d'ailleurs,
bisous.
Si vous êtes sur Gameblog, vous êtes au Japon, contactez Kaminos.
Et bisous à Vince et à Alexis.
C'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de faire une interview. On fait durer un peu plus que prévu le podcast, mais une interview de quelqu'un de chez Game Freaks, donc le studio de Pokémon, pour leur nouveau jeu là en partenariat avec Sega. Je lui demandais s'il y avait beaucoup d'occidentaux chez Game Freak, et pourtant on aurait tendance à penser que c'est un studio vraiment purement japonais. Il me dit il y a beaucoup de développeurs occidentaux qui travaillent chez Game Freak.
Je ne sais plus si on l'a évoqué dans ce podcast ou si on est passé au travers, mais il y a effectivement, c'est ce que tu me disais en préparation aussi, énormément de, et c'est Kojima encore une fois qui l'a fait je crois avant tout le monde, de développeurs étrangers dans les studios japonais aujourd'hui.
Regardez les crédits de gens des démos de Luminous Engine etc. de Square Enix, il y a plus de noms occidentaux que de noms japonais dedans.
Donc ça c'est une tendance aussi et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire une prise de conscience quelque part aussi, et un pour la technique et deux pour avoir envie aussi de parler au goût des occidentaux. Dans tous les cas, voilà, on n'a pas fini de vous parler de jeux japonais, bien heureusement. Et donc on va refaire cette conclusion. J'espère que vous allez pas me faire une digression en pleine conclusion encore une fois. Ce sera un plaisir. Moi j'aimerais bien que ça dure encore des heures, mais il faut rester raisonnable. Voilà, donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. On va reprendre le rythme de l'actu et bien sûr notre petit plumeau national qui reprendra cette place pour.
Il va revenir tout bronzé.
Qui sera bien bronzé de sa Sicile et qui sera en pleine forme pour hoster à nouveau sur ce fauteuil. Les podcasts de Gameblog. En attendant, à très bientôt donc, et on vous embrasse.
Sayonara.
Et bisous à Julien.
Ciao.
Ciao.